Donc voilà, c'est démarré. Bonsoir à tous. Bienvenue donc sur ce 15e épisode de Radio Pléiade. On continue, on continue. Donc ce soir, en fait, donc le sujet qui est annoncé pour ce soir, alors c'est un sujet qu'on a déjà un petit peu abordé. C'était début juillet. On avait déjà parlé un petit peu de l'astral, du voyage astral et du rêve conscient. On va revenir un petit peu sur tout ça avec une nouvelle intervenante ce soir qui est Léa, qui va se présenter tout à l'heure. Donc en fait, l'objectif, c'était de reparler un petit peu, alors continuer à démystifier l'astral et le voyage astral, en fait, qui n'est pas un phénomène de cirque, mais bien un élément essentiel et méconnu de notre vie, aussi bien consciente qu'inconsciente. Donc on va parler de scènes de vie dans l'astral, de sexualité dans l'astral, oui, encore, et de théâtre de l'astral, parce que ça aussi, c'est un élément très, très important de notre éveil et de notre discernement. Et voilà, et notre invité de ce soir donc est une personne qui a eu une vie consciente dans l'astral particulièrement riche. Léa, justement, donc ici présente, bienvenue à toi. Est-ce que tu peux dire quelques mots pour te présenter?
Oui, alors bonjour à tous, bonjour Hervé, merci de m'avoir invité sur ce salon ce soir. Effectivement, moi j'ai quand même eu pas mal d'expériences au niveau astral, donc consciente. Voilà, je suis ravie aujourd'hui d'être là pour partager ça avec vous. C'est pas ce que je fais de manière courante. J'en ai parlé à très peu de monde parce que forcément, ça fait pas partie de notre société, ça fait pas partie non plus des échanges qu'on peut avoir facilement. Voilà, aujourd'hui j'ai un grand auditoire, il y a un petit stress quand même, mais bon, ça va. Je suis
Non,
contente
t'inquiète
d'être
pas,
avec
ça va aller.
vous.
Tu fais quoi dans la vie? Est-ce que c'est indiscret de te demander? Tu n'es pas obligé de
Non,
répondre.
non, c'est pas indiscret. Je travaille en thérapie holistique. Donc
D'accord. Et c'est
j'accompagne
quoi la thérapie
toutes les
holistique?
gens. Alors, la thérapie holistique, c'est accompagner les gens dans leur globalité. Donc, autant sur le corps physique que sur justement les corps subtils. Donc, on va travailler en énergétique, on va travailler avec plein, plein d'outils différents.
D'accord. Très bien. Bon, on va revenir là-dessus. Alors, juste pour terminer justement le préambule de cette émission. Donc je suis Hervé Gaillat. Donc, j'organise ces Radio Pléiades déjà depuis quelques temps. Donc, je gère le site Révolution Vibratoire ainsi que Lève le Voile. Et alors, mon humeur du jour, en fait, c'est enfin, ou plutôt mon message du jour, c'est protéger les enfants. Protéger les enfants, en fait, c'est un message qui diffusait déjà dans la sphère, dans la complosphère, comme on l'appelle, il y a un an. On se posait un petit peu la question de pourquoi ce message, déjà d'ailleurs, il y a un an. Maintenant, aujourd'hui, on comprend beaucoup mieux avec la nouvelle offensive qui va être faite sur les enfants avec les vaccinations, les vaccinodromes, les enfants emmenés dans des vaccinodromes, je dirais pas de force, mais presque. Et toute cette propagande extrêmement puissante qui se développe justement maintenant autour de la vaccination des enfants, puisque c'est la nouvelle cible du plan qui se déroule actuellement. Donc voilà, protégez les enfants et sachez que vous devez résister face à ça et que les résistants d'aujourd'hui font la légende de demain. Alors un petit mot peut-être Sandrine aussi et Cindy pour vous présenter rapidement.
Bonsoir à tous. Je suis Sandrine. Avec Florence, nous animons le canal Méditons ensemble pour la libération. Nous faisons des méditations ciblées avec la colonne bouddhique essentiellement et pour, on va dire, nettoyer, si on peut appeler ça comme ça, épurer un petit peu les plans sombres, les plans astraux, les plans subtils du louche. Pour alléger un petit peu la planète et que la lumière passe beaucoup plus facilement et l'amour puisse se développer concrètement. Voilà.
Merci Sandrine. Alors justement, donc je précise, donc il y a deux, comment dire, il y a deux groupes Telegram. Alors il y en a un, c'est un groupe de discussion, donc qui s'appelle Méditons ensemble pour la libération planétaire, donc qui comprend déjà plus de 900 personnes, donc dans lequel vous organisez ces méditations quotidiennes, même plusieurs fois par jour. Et puis il y a aussi un canal qui a été nouvellement créé. On vous invite à aller vous inscrire. Donc un canal, là, ce n'est plus un groupe de un chat groupe, hein, c'est plus un groupe de discussion. C'est juste pour diffuser justement les programmes de méditation quotidiens, mais également les supports de méditation. Donc le canal s'appelle tout simplement Méditons Ensemble. Et le canal Méditons Ensemble est lié au groupe de discussion Méditons Ensemble pour la libération planétaire. Et je fais une deuxième petite parenthèse, c'est qu'en fait, on a eu une guerrière de lumière qui a fini sa mission sur la bataille de la Somme, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais on plante des pierres magiques justement dans les différents champs de bataille pour aider les âmes à se libérer et puis la souffrance à se nettoyer justement. Tu parlais du louche tout à l'heure. Et il faudra justement, j'ai une petite mission à vous confier, Sandrine, il faudra organiser une méditation spéciale pour la bataille de la Somme maintenant que cette mission pierre est terminée. Et voilà. Et un grand merci à la personne qui a fait ça, elle se reconnaîtra.
Oui, c'est parfait. On fera, on va faire. On va programmer ça. Merci beaucoup, Hervé.
Ouais. Alors, Cindy, un petit mot pour te présenter.
Bonsoir à tous, je m'appelle Cindy. Donc, je représente et je gère le réseau francophone de Prepare for Change. Je gère aussi le site français des méditations, French School of Mass Meditation. Et d'ailleurs, les groupes Telegram de Sandrine prennent support sur la plupart des méditations qui y sont. Ensuite, je gère des groupes Facebook. Je participe aussi aux sessions françaises et anglaises de désimplantation qui ont lieu les mercredis soirs. Et la prochaine session des implants aura lieu ce mercredi soir en anglais avec support multilingue, si vous voulez nous rejoindre. Voilà. Et je représente aussi la civilisation ancienne et multidimensionnelle d'Hyperborée, côté lyrien. Voilà.
Ok, super. Bon, alors, tu vois, désolé, hein, les gars, on est sur une radio, donc finalement, il y a pas mal de blabla, il y a pas mal d'annonces, et je n'ai pas encore tout à fait terminé, et après, on attaque le vif du sujet. Donc, la dernière annonce, c'est pour les dernières annonces, donc c'est pour le Radio Pléiade de lundi prochain. On a le retour de Nadine Touzeau, donc, qui est profileuse de niveau mondial, en fait, avec qui j'ai fait une émission récemment, justement, sur, on va dire, sur le discernement, enfin manipulation et comportement dans le domaine de la spiritualité et dans la divulgation. Donc, on fait un Radio Pléiade avec Nadine Touzeau lundi prochain. Donc, si vous voulez échanger directement de vive voix avec elle, la questionner sur un avis par rapport à une personne que vous suivez activement, vous aurez la possibilité de le faire. Donc voilà, ce sera, on va réaborder les questions du profilage et du discernement. Je pense que ça va être une émission très intéressante et avec cette fois-ci la possibilité d'interagir directement avec elle. Et puis je vous prépare également un Radio Pléiade sur le thème des ovnis. C'est en cours, la date n'est pas encore tout à fait fixée, mais vous allez avoir ça très bientôt. Donc voilà, les annonces sont terminées. Donc on va attaquer le vif du sujet. Léa, tu es prête ?
Oui, je suis prête. J'attends que tu me donnes ton feu vert.
Alors je te donne mon feu vert et tu vas nous dire un petit peu justement, tu vas commencer par nous dire des choses simples par rapport à l'astral et la vie dans l'astral, et notamment, je ne sais pas, comment tout ça a commencé pour toi et puis après, on abordera des questions un petit peu plus complexes au fil de la soirée.
Ok. Alors, comment tout a commencé ? Alors, j'ai envie de dire que c'est pas comment tout a commencé, c'est que c'était déjà là, en fait, quand je suis arrivée sur Terre, en fait. Hein. Il n'y a pas eu de déclenchement particulier. Après, ce que j'aimerais dire aussi avant de commencer, c'est que bon, j'ai pas de don particulier. Hein. On fait tous des sorties astrales. C'est juste qu'on n'en a pas forcément conscience, mais on le fait tous. On le fait tous la nuit, on le fait tous même au cours de la journée. Donc, je n'ai pas de don particulier. Je ne suis ni une sorcière, ni une fée, ou je ne sais pas quoi encore. Et que tout ce que je vais vous dire, ça n'est que mon expérience. Donc, ça n'est pas non plus une vérité absolue. Hein. Je vais vous livrer mon expérience, mais je ne vous demande pas de me croire. Voilà. Donc, comment tout a commencé, comment je m'en suis rendu compte, en fait, quand j'étais petite, je jouais de manière assez particulière déjà. Par exemple, si je jouais avec des petits sujets comme des Playmobil, j'installais les Playmobil et ensuite je ne les touchais plus et le jeu se faisait de manière mentale, en fait, avec mes yeux. Donc, je jouais, mais sans toucher les petits personnages. Donc, ça, c'est un premier exemple. Et un deuxième exemple, c'est je m'amusais aussi à rentrer dans le miroir et à me regarder jouer. Et bien sûr, bon, j'ai fait ça jusque peut-être 6 ou 7 ans. Et puis après, ben, forcément, l'enfant parlant beaucoup, je racontais comment je jouais. Donc on m'a dit stop, ça se fait pas, ça se dit pas. On m'a pas dit ça n'existe pas, mais on m'a dit faut pas dire ça, faut pas parler de choses comme ça. Donc en étant enfant, j'ai pensé que c'était des bêtises, que c'était pas normal, que je jouais pas comme il fallait. Donc j'ai ressenti ça comme une sorte de castration en fait. Hein. Donc j'ai arrêté, j'ai joué comme les autres enfants. Mais chasser le naturel et revient au galop. Donc, c'est revenu assez rapidement, mais de manière pas réellement consciente, en fait. Ça a été un exercice de conscientisation de l'astral depuis enfant. Les premières apparitions de cet exercice, ce que je faisais sans me rendre réellement compte, c'est que le soir, je refaisais ma journée mais au millimètre près, et je ne comprenais pas pourquoi je faisais ça. Je me disais, mais c'est pas possible, je suis complètement malade, quoi. Comment je peux passer ma journée et le soir la recommencer, mais d'une autre manière, en fait, qu'au niveau mental, que dans la tête. Je pensais que c'était au niveau mental, dans la tête. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, je créais une réalité sur un autre plan, où je pouvais retourner. Donc, c'est comme si je pouvais retourner dans le passé, et refaire des choses, donc revoir des choses qui avaient eu lieu, réentendre des sujets, des échanges, des conversations, tout ça. Donc ça commençait à prendre un sens, mais ça c'était sur une période assez longue hein, quand même, le travail s'est fait sur une période assez longue, jusqu'à ce que je prenne conscience que je sortais de mon corps en fait. Je sortais de mon corps et je faisais... j'avais une autre vie sur un autre plan. Alors au début c'était la même que la vie que j'avais vécue la journée, puisque les sorties se faisaient essentiellement la nuit, et ensuite j'ai commencé à créer autrement. Donc le soir j'imaginais des choses que j'avais envie de faire, donc ça pouvait être des voyages, ça pouvait être des promenades, ça pouvait être tout genre de choses, je les imaginais tellement fort qu'à un moment donné, je me retrouvais dans le lieu que j'avais créé. Et j'étais toujours, bien sûr, j'étais toute seule, hein, je créais pour moi toute seule. Donc je rencontrais personne, sauf que je voyais des silhouettes, je pouvais voir des silhouettes, des ombres, je voyais bien que c'était d'autres personnes qui étaient dans le même lieu ou sur un lieu un peu parallèle, mais je n'avais pas d'interaction avec eux. Et à un moment donné, à force de croiser ces silhouettes, il y en a qui sont venus me parler, je me suis rendu compte que c'était parfois des gens de la vie de tous les jours, quoi. Donc ça a commencé un peu comme ça, sur l'enfant qui le fait de manière spontanée. Ensuite, on dit à l'enfant, c'est pas normal, il ne faut pas faire ça, il faut pas raconter ce genre de jeu-là, c'est pas bien. Donc l'enfant arrête et petit à petit, ça a été arrêté pour justement une reconstruction et une conscientisation. Je pense que si je n'avais pas été arrêtée, j'aurais pas pu cristalliser le corps astral. En fait, j'aurais continué de manière mécanique sans avoir conscience de ce que je faisais réellement.
Et alors, il y a beaucoup, beaucoup d'entre nous, en fait, ont pris conscience de cette dimension de l'astral à travers des livres, notamment. Est-ce que, en toi, il y a eu des livres qui ont été déclencheurs par rapport à ça, en termes de compréhension, par rapport à ce que tu vivais ?
Non, pas du tout. Il n'y a eu aucun livre. J'en ai acheté, hein, parce que forcément, je me suis posé beaucoup de questions. Donc, j'en ai acheté que je n'ai jamais ouvert. Et pourquoi ? Ben, manque de temps, et puis peut-être parce que simplement j'en avais pas besoin, j'avais besoin de faire mes propres expériences. C'est pour ça que je vous dis, ce que je vous dis là, c'est mon expérience à moi, et vos expériences à vous, vous allez les ressentir à votre façon, à vous. Donc elles ressembleront pas ni à la mienne, ni à d'autres. On a chacun nos façons de percevoir l'astral et de se mouvoir dans l'astral en fait. Et donc non, il n'y a jamais eu de livre. Par contre, il y a eu un grand cheminement avec une personne avec qui j'ai échangé beaucoup sur ce sujet, justement, et heureusement, parce que j'aurais pu tourner à la folie, hein, avec qui j'ai échangé sur ce sujet, qui faisait la même chose, avec qui je faisais beaucoup de méditation, beaucoup de conscientisation, beaucoup de travail personnel. Donc oui, il y a eu un échange, il y a eu une personne qui est plus âgée que moi et qui avait déjà cette expérience-là et ce savoir-là, qui a énormément vécu en Inde, qui, enfin voilà quoi. Mais sinon, non, il n'y a jamais eu de livre.
Alors, il t'a appris du coup à sortir de ton corps de façon volontaire, c'est ça ?
Non, il ne m'a pas appris, en fait, il savait très bien que je savais le faire. Donc au début, il ne me disait rien. En fait, il ne m'a jamais apporté d'enseignement, mais il m'a toujours apporté un soutien en me disant « Ok, je suis là pour t'écouter », sans me dire que lui savait aussi, pour que justement je trouve mes réponses moi-même et que je me construise toute seule. D'accord. Donc il ne m'a jamais appris, il m'a juste dit « Ok, je comprends ce que tu dis ». C'est pas anormal, voilà ce que c'est de l'astral, c'est en m'expliquant les choses, mais jamais en me disant que lui savait aussi, pour justement ne pas me formater, en fait. Voilà.
Alors, ces sorties astrales, tu les fais justement dans la journée en conscience ou tu les fais la nuit en rêve conscient?
Alors, c'était essentiellement la nuit, c'était juste avant l'endormissement. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Hein. C'est mal fréquenté, l'astral, en ce moment. Donc,
tu parleras de ça tout à l'heure, justement.
Ouais. Je ne fais plus trop ça. Par contre, oui, je faisais le soir, avant de m'endormir, je créais un monde où j'allais vivre autre chose, quoi, en fait. Hein. Mais au début, toute seule, jusqu'à ce que je sois interpellée, en fait. Jusqu'à ce que je sois interpellée par d'autres personnes qui étaient dans mon champ astral, donc dans ma création, et qui n'avaient rien à faire là. Donc, je me suis dit, mais c'est... Enfin, la première fois où ça arrivait, moi, j'aimais beaucoup, c'était créer des villes avec des vieilles pierres. En fait, je suis pas sûre de les créer, de les avoir créées réellement, mais en tout cas, c'est dans ces endroits-là que je me dirigeais tout le temps. Je visitais des villes qui étaient très anciennes, avec des passages secrets, enfin, tout genre de choses, quoi. Et un jour, au milieu d'une grande place, je vois une de mes amies sur un brancard avec des infirmiers autour d'elle. Et moi, je suis en train de me promener, donc je suis dans un endroit qui, pour moi, est joyeux, qui est en paix, et elle, je la vois là, pas bien, et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle n'a rien à faire dans ce décor-là, je ne comprends pas, quoi. Et je ne l'interpelle pas, mais moi, ça m'interpelle. Je me dis, d'habitude, les gens, je ne les vois pas aussi clairement. Et après, bon, moi, c'est tout, je rentre dans mon corps, je dors, ou je fais des choses peut-être inconscientes, j'en sais rien. Et le lendemain matin, je me réveille, je sais que c'est passé quelque chose dans la nuit, mais je ne me souviens plus. Et il y a toujours son prénom qui me revient dans la tête. Et je me dis, mais pourquoi ça me revient toujours dans la tête ? Et à un moment donné, je me dis, je vais lui envoyer un message et je vais lui demander comment elle va. Et là, elle me dit qu'elle n'est pas bien du tout, qu'elle est très dépressive, que ça ne va pas du tout, qu'elle veut partir, que ça ne va pas. Et je me dis, ah ok. Et là, il y a les images qui me reviennent. Et je me dis, ah ok, elle était dans mon champ astral pour... c'était une sorte d'appel au secours, en fait. Et donc, je la laisse parler, je la laisse parler tout le temps en lui disant, ok, faut pas faire de bêtises, je lui parle de ses enfants, j'essaye pendant 3 heures de la dissuader de faire des bêtises. Et finalement, je me rends compte que pour elle, c'est la seule solution. Elle est tellement mal que c'est la seule solution. Et là, je lui dis, ok. Ok, si c'est ce que tu veux partir, alors je suis ok et je t'en voudrais pas et je comprends. Et là, elle me dit, c'est juste ce que j'avais envie d'entendre, que tu me comprends. Et là, du coup, ben, j'ai envie de rester. Et là, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre. Du coup, je lui parle et je lui dis, voilà, cette nuit, je t'ai vu. Alors, je lui dis, je t'ai vu dans un de mes rêves, tu étais sur un brancard avec des infirmiers autour de toi. Et là, elle me dit, mais oui, mais je sais, mais c'était à toi que je pensais, mais je n'osais pas t'appeler. Et en fait, inconsciemment, elle était venue dans mon décor astral pour venir me dire, ça va pas, appelle-moi. Et donc là, c'était l'une des premières interactions en fait avec une autre personne.
Alors, excuse-moi, mais à ce stade-là, en fait, on est en droit de se poser la question, surtout que tu utilises le terme de création, ma création. Qu'est-ce qui te permet de dire qu'on est bien dans un voyage astral, dans une sortie astrale et non pas dans un rêve?
Ben parce qu'en fait, tu fais ce que tu veux, c'est toi qui contrôles. Un rêve, tu vas regarder le cinéma défiler devant tes yeux. Une sortie astrale, tu vis, quoi, tu vas où tu veux. Si tu n'as pas décidé de te tourner à droite, tu ne tournes pas à droite. Tu vois, c'est toi qui tu vis comme tu as envie de faire. Moi, je me disais, tiens, j'ai envie de passer là, je vais passer là. Tiens, je vais sortir et je vais rentrer parce que j'en ai marre. Ou alors, j'arrive pas à sortir de mon corps et je m'accrochais au montant de la porte et je tirais pour sortir, en fait.
Parce qu'en fait, si tu veux, il y a quand même la notion de rêve conscient. Et dans un rêve conscient, justement, en général, tu contrôles. Tu crées, tu contrôles. Parce que pour la sortie astrale, le voyage astral est souvent lié à une sensation de sortie et une sensation de retour. Est-ce que justement, dans ces cas-là, tu avais cette sensation de sortie du corps et de retour dans le corps?
J'avais surtout la sensation du retour, qui était parfois très violent et qui me faisait mal au corps physique, en fait. Parce que je rentrais trop vite, je rentrais trop brutalement. Et ce que je faisais quand j'étais plus jeune, c'est que... Bon, je ne dis pas que je suis vieille. Hein. Mais quand j'ai commencé à avoir vraiment conscience de ce que je faisais et que j'en avais marre et que je voulais rentrer dans mon corps, je sautais dans le vide. Donc, ça provoquait un réflexe. Ça provoquait un réflexe du corps physique et ça automatiquement mon corps astral reprenait sa place.
Mais on a la même technique. On a exactement la même technique. Je parlais de ça justement dans l'émission de juillet sur le voyage astral. Voilà, quand tu sautes dans le vide, il faut juste être sûr que tu es bien dans le rêve et non pas dans la réalité.
Voilà, carrément. Voilà, c'est ça. Mais moi, je me faisais mal, en fait, parce que je rentrais trop rapidement dans mon corps et ça me faisait énormément mal au dos. En général, ça me faisait très mal au niveau des omoplates. Et j'avais besoin d'un petit temps sans qu'on me parle, sans qu'on me touche. Et je me disais, pourvu que personne ne bouge dans le lit, là, parce que sinon, ça ne va pas aller. Parce que j'étais parfois, le corps était un peu décalé, donc je sentais que c'était un peu décalé. Il fallait que je me concentre un peu pour me recentrer, justement. Donc oui, je sentais très bien, je sentais surtout le retour. Le départ, je le sentais pas spécialement parce que c'est assez rapide quand même. Par contre, le retour, ouais, j'ai quand même morflé de temps en temps.
Et une conscience bout à l'autre de la sortie.
Parfois une perte de conscience. Alors plus là récemment, enfin les derniers temps là, avant la guerre Covid, où j'avais l'impression à l'entrée d'être anesthésiée en fait, pour justement ne pas faire ce que je veux, quoi. Ne pas faire ce que je veux dans l'astral. Donc j'avais l'impression de ne rien faire finalement, de passer de l'autre côté.
Qu'est-ce que tu entends par anesthésiée? Tu parles, enfin je sais pas. Nous, il y a une notion qu'on manipule pas mal justement dans Révolution Vibratoire, et puis c'est la notion d'implant. Mais à quoi tu penses exactement quand tu parles d'anesthésie?
Je pense que quand on me voyait arriver ou quand on me sentait arriver, je me prenais je ne sais pas quoi, peut-être oui, peut-être un implant, peut-être un jet de quelque chose qui fait que je n'allais pas plus loin que la porte, quoi. Je me souvenais de rien, quoi. J'avais vraiment l'impression de passer de l'autre côté pour aller y dormir. Donc je me disais, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quand je reviens, je n'ai aucun souvenir? Alors, est-ce que j'ai fait des choses et on m'a effacé les souvenirs ou je ne sais pas? Ou alors, est-ce que j'y vais, on m'endort et je ne fais rien? Et j'avais plus cette sensation-là, que je n'étais pas la bienvenue parce que justement, je n'évoluais plus de manière horizontale, mais de manière verticale. Donc ça, c'était pas...
Alors vas-y, explique ça, c'est super intéressant ça. Ça rejoint complètement mon expérience aussi. Explique, qu'est-ce que tu appelles l'évolution verticale et non pas horizontale?
L'évolution verticale, justement, c'est prendre conscience que de l'autre côté, c'est le même cinéma qu'ici, quoi. C'est le même cinéma, c'est... On a beau parfois créer des choses, la majeure partie du temps, ce qui est de l'autre côté, a été créé par... par une entité, par autre chose. Donc, en fait, ça n'est pas réellement notre création. Et on nous fait évoluer dans ces rêves, dans ces plans astrales, justement, ou astro, je ne sais pas si on dit astral ou astro, pour nous faire croire justement à quelque chose de fabuleux, à quelque chose de, voilà, je peux aller visiter tel et tel endroit comme j'ai envie, mais en fait, non. Et quand on prend conscience de ça, donc du coup, on prend conscience qu'on bouge plus de manière horizontale, mais de verticale. On monte, on se dit, tiens, ça, le décor-là, il ne me plaît pas trop, et je vais essayer de le démonter et de trouver le metteur en scène. Là, on est de manière verticale. Là, on est en train de conscientiser que de l'autre côté, c'est aussi un grand théâtre, en fait. C'est aussi un grand théâtre.
Oui, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse par rapport au terme de base astrale. En réalité, quand on est dans l'astral et qu'on monte en vibration, alors la raison de la montée en vibration, elle peut être multiple. Hein, ça peut être tout simplement la volonté. Ça peut être une action spéciale, enfin qui, je sais pas, par exemple, réciter une prière. Moi, ça m'est arrivé dans l'astral de réciter une prière. Donc, quand on monte en vibration, on a cette sensation d'élévation dans l'astral. C'est comme ça. Donc, en général, tant qu'on reste effectivement en bas de l'astral. Alors, ce n'est pas forcément les tréfonds de l'astral, mais en tout cas, quand on parle du bas astral, c'est l'astral justement dans lequel, tant qu'on est dedans, on est bien dans la matrice, même si on n'est pas dans le plan physique, on reste bien dans la matrice, on ne représente pas un danger, pour moi, ce que j'appelle les gardiens de la matrice. Par contre, quand on commence à monter, donc l'évolution verticale dont tu parles, là, on commence à devenir un petit peu plus ennuyeux. Et c'est là qu'on est face, en tout cas, ça, c'est mon expérience, à des gardiens, ou bien pas forcément des gardiens, mais en tout cas des mécanismes qui vont avoir tendance à nous rabaisser, à nous faire redescendre. Est-ce que tu as une expérience semblable ?
Alors, j'ai des souvenirs d'expériences d'attaque, en fait, où au moment de passer de l'autre côté, on me faisait rentrer très rapidement dans mon corps et on me faisait peur, justement, pour pas que j'y retourne. Donc, on me faisait effectivement visiter des plans astrales qui étaient bas, donc qui étaient affolants, quoi, parce que dans les plans astrales, on va croiser nos peurs les plus terribles, on va croiser des monstres, on va croiser ce genre de choses. Donc on m'a montré ça pour justement que je n'allais pas voir plus haut et que j'essaye pas de démonter le cinéma qu'on avait pu me montrer avec des monstres ou avec mes peurs. Parce que je n'allais pas y aller, forcément, ça me fait peur. Donc, je ne vais pas aller démonter ça, je vais plutôt rester dans mon corps. Et, donc, oui, être tiré vers le bas, oui, j'ai déjà eu cette sensation-là, parce que j'étais montée trop haut, justement. J'étais montée trop haut, et du coup, j'étais très, très dérangeante. Parce que je démontais les décors et je voulais attraper le metteur en scène.
Donc, alors, raconte, démonter les décors, vraiment, tu... qu'est-ce que tu faisais exactement ?
Ben, j'étais fâchée, donc je cassais tout. Je cassais tout et j'essayais toujours de voir ce qu'il y a derrière. Par exemple, si j'étais dans une... ceux qui mettent en place des décors savaient que j'aimais bien les vieilles pierres et tout ça. Donc, j'avais toujours droit à des décors comme ça. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, il y a quoi derrière mes vieilles pierres ? Et pourquoi il y a des endroits où j'allais avant où je n'ai plus le droit d'aller ? Parce que j'ai découvert des petits passages, quelquefois des petites portes par lesquelles je voulais rentrer et ce n'était pas autorisé, quoi. C'est un peu comme le rêve, le film. Alors, je ne sais plus ce que c'est ce film-là pour les enfants. Il y a un film qui est super bien fait, un film d'animation. C'était. Ah, je ne sais plus. Où justement, la petite fille, elle démontait les décors. Elle démontait les décors de ses rêves. Pour justement trouver qui avait mis en scène ce rêve-là. Quoi. Je ne sais plus.
Ça m'intéresse. Alors, s'il y a un auditeur qui nous écoute, qui connaît le film d'animation auquel Léa fait allusion, je suis intéressé parce qu'effectivement, ça touche vraiment à notre réalité.
Ouais. Ah oui, mais complètement, complètement. Et de toute façon, en général, hein, les films d'animation comme ça, Pixar, Disney, et même les films de science-fiction nous donnent énormément de vérité sur la réalité physique, astrale, interplanétaire et tout le reste. Il y a une loi cosmique qui dit que toute vérité doit nous être dite. ou au moins doit nous être annoncée. Donc elle nous l'est annoncée, mais à travers la science-fiction. Donc si on regarde un film de science-fiction comme un film de science-fiction, on n'apprend rien. Par contre, si on le regarde avec une autre conscience, là on se dit, ah ouais, on se fait manipuler, quoi.
Alors, moi, pareil, hein, je suis comme toi, je suis quelqu'un de curieux. Après m'être fait balader beaucoup, hein, évidemment, dans les décors de l'astral, hein, on tombe tous dans le panneau, c'est évident, le temps justement que notre force spirituelle se développe, et puis notre conscience aussi dans l'astral se développe, parce qu'elle est quand même amoindrie par les implants, hein, dans ma vision des choses. Donc, moi, j'étais très curieux, et je me suis mis à tâter le décor. Je me suis mis à tâter les objets aussi du décor, hein, les artefacts qu'on met sur des pièces de théâtre, hein, les fausses pommes, les fausses oranges qu'on peut trouver dans une pièce de théâtre. Et puis, je me suis mis aussi à essayer d'aller voir derrière ce qui s'y passait. Et c'est là que j'ai pris conscience justement de ces notions de théâtre, comme quoi, en fait, on amène notre âme dans l'endroit où, quelque part, notre âme désire aller. Sauf que c'est quelque chose de construit, c'est quelque chose d'artificiel. Et puis, on est face aussi à des acteurs qui peuvent porter des masques de notre famille, de nos amis, des personnes qui ont vécu auprès de nous mais qui sont décédées, parce qu'ils savent justement que c'est une façon de nous faire plaisir, de nous montrer tout ça. Et alors, est-ce que tu as essayé parfois d'enlever les masques de ces acteurs?
Oui, ça m'est déjà arrivé de me dire, mais la personne que je vois en face de moi, c'est pas elle, quoi. Par exemple, je faisais un rêve où j'étais avec une collègue et avec l'un de mes clients. Et mon client voulait me faire signer un contrat à tout prix. Et ma collègue disait, si, si, il faut que tu signes, c'est bien, signe, c'est génial et tout. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas possible parce que cette collègue ne me forcerait jamais à faire quoi que ce soit. Et ce client-là non plus ne me dirait pas signe à tout prix. Et je me suis rendu compte qu'on essayait de me faire signer un consentement, en fait. Donc, j'ai dit, ah oh, je vous ai reconnu. Et là, ils se sont volatilisés en fait. En disant.
Alors, attends, c'est super intéressant. Non, c'est super intéressant ce que tu dis parce que nous, justement, on fait des séances de dissolution d'implants. Et dans chaque séance de dissolution d'implants, on a des exercices préliminaires, préparatoires. Et dans ces exercices préparatoires, justement, on fait ce qu'on appelle l'annulation des contrats d'avec les forces sombres pour pouvoir, pour être plus légitime pour travailler là-dessus, sur les implants. Donc là, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que dans un voyage astral, on te fait croire que tu signes un contrat comme si tu étais dans la vie réelle, parce que des fois, c'est vrai qu'on a du mal à faire la différence entre le rêve et la réalité quand on est dans le rêve, enfin dans le voyage astral, mais qu'en réalité, c'est un contrat qui collecte ton consentement pour quelque chose que tu ne sais pas finalement. Enfin, voilà, tu ne sais pas quoi.
Ben voilà, c'est ça. Donc en fait, dans l'astral, il ne faut pas se fier à ce qu'on voit, mais il faut se fier à ce qu'on ressent.
Et la vibration des personnes qu'on a en face de nous, justement.
Voilà, c'est ça, c'est à ce qu'on ressent. Moi, je voyais très bien que c'était pas les vibrations des personnes que je connais. C'était pas possible que ce soit elles. Donc je me suis dit non, il y a un truc qui cloche. Et quand j'ai dit oh, je vous ai reconnu en disant je sais que vous n'êtes pas telle et telle personne, ça s'est volatilisé et je me suis réveillée. Et là, j'étais encore une fois fâchée. Je me suis dit mais c'est pas possible, je vais y retourner, ça. Ça ne va pas le faire, quoi. Je suis trop fâchée, pas que j'y retourne. Mais oui, effectivement, ils prennent l'apparence de gens qu'on connaît, qu'on a en affection, et puis pour nous faire faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, quoi.
Alors moi, j'ai développé avec le temps une petite stratégie, justement, face à ces acteurs et ces imposteurs, c'est de leur demander leur nom. Et comme on est dans le... J'en avais parlé un petit peu déjà de ça. Comme on est dans les plans subtils, en fait, le nom est très, très important. La notion de nom, c'est enfin, le nom est créateur. Et le simple fait de demander à la personne son vrai nom, eh ben, si c'est une baudruche, si c'est un ballon de baudruche, eh ben, elle va se dégonfler toute seule, comme tu le disais tout à l'heure, et disparaître comme par enchantement. Il n'existe plus.
Oui, ça n'existe plus, ça disparaît, en fait. Ça se volatilise. Et moi, ce que je faisais aussi dans ces cas-là, c'est qu'effectivement, j'y retournais. Et je prenais le document et je le déchirais, quoi. Je le déchirais en disant non, mais il n'est pas valable. C'est une arnaque et je suis pas OK. Donc je déchirais, en fait, j'annulais ce qui avait été créé par autrui, quoi. Enfin, je ne sais pas si on peut dire autrui dans ce cas-là, mais par une autre forme de conscience. Donc
alors,
je retourne.
Ben juste, Justement, j'en profite, je n'ai pas été jusqu'au bout tout à l'heure, donc par rapport à ces contrats qu'on nous fait signer, qu'on fait signer à notre âme aussi d'ailleurs avant une réincarnation, donc ces contrats fallacieux, donc tu l'as déchiré, très bien. Et bah, en réalité, ce travail-là, justement, c'est le travail qu'on fait, mais sur le plan physique, quand on fait le travail préparatoire à la dissolution des implants. Donc, on annule les contrats. Donc, toi, tu as cette conscience et tu as cette force qui te permet d'agir même directement sur le plan astral pour annuler ces contrats. Je trouve ça extraordinaire.
Voilà, mais j'ai fait ça depuis très longtemps, en fait, les sorties astrales. Donc, c'est pour ça que j'ai pu permettre à mon corps astral de se cristalliser. Et à un moment donné, j'ai eu cette impression où moi, la nuit, je dormais et lui, il faisait sa vie, quoi. Tu vois, j'avais vraiment l'impression d'avoir, je ne vais pas dire une double vie, mais une vie ici et une vie ailleurs. Quelquefois, je faisais pas attention à ce que mon corps astral pouvait aller faire de l'autre côté, quoi. Je me disais, c'est bon, moi là, je suis fatiguée, c'est pas la peine de me ramener quoi que ce soit. On va jouer derrière et puis, puis moi, je dors, quoi. Donc, ça a été une période comme ça où je me suis dit, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'arriver à être à deux endroits en même temps.
Donc, ça, c'était justement, assez... parce que tu parles de double vie, un des thèmes que j'ai annoncé, je pense, qui doit intéresser un certain nombre de personnes, c'est cette notion, et qui intriguait d'ailleurs un certain nombre de personnes, c'est cette notion de sexualité dans l'astral. Tu as une expérience assez forte à ce sujet, mmh. et on aimerait bien que tu nous racontes.
Alors, en fait, donc la personne avec qui j'évoluais dans la vie de tous les jours, donc dans la matière, qui me faisait évoluer sur un plan spirituel, j'ai su, après le travail effectué, qu'avec cette personne, on avait déjà eu une vie ensemble, mais il y a très longtemps. Moi, je ne savais pas, lui avait reconnu tout de suite, mais moi, je ne savais pas. Donc, ça a duré pendant 15 ans, comme ça, où j'ai cheminé pour me rendre compte, à la fin, que je cheminais pour guérir un karma. Donc, ça s'est présenté comment la première fois ? J'avais fait donc là, pour moi, j'avais catégorisé ça de rêve, mais je m'étais réveillée un matin complètement perturbée, en pleurs. J'avais rêvé d'un homme que j'avais aimé, mais d'une force incroyable. Et cet homme-là, je l'avais perdu, pas parce qu'il était décédé, mais parce qu'il était parti, il m'avait laissé. Donc, je me suis réveillée à pleurer à un homme que je ne connaissais pas pendant 3 jours. Enfin, j'étais vraiment pas bien. J'étais mariée, donc moi je ne me sentais pas bien non plus par rapport à mon mari. Je me disais, mais c'est pas possible. Comment je peux pleurer un homme que je ne connais pas? Comment je peux me rendre compte que j'aime un autre homme plus que lui? Enfin, c'était juste affolant dans ma tête. Et donc, pendant 3 jours, j'étais très perturbée. Et au bout d'un moment, j'ai mis ça de côté et je me suis dit, bon, c'est tout, c'était qu'un rêve. Et puis, je l'ai ressenti fort et voilà, c'est tout. Et à la personne avec qui j'évoluais, je lui ai raconté ce rêve. Et j'avais vu que ça l'avait interpellé et qu'il était un peu embêté que j'ai ce souvenir-là. Mais il ne m'a jamais dit, oui, je sais de quoi tu parles. Mais j'avais remarqué qu'il était embêté. Je me disais, mais pourquoi il est embêté? C'est mon rêve, c'est plutôt pas son rêve, quoi. Et donc on a continué à cheminer comme ça et je me suis rendu compte de plus en plus qu'il y avait un rapprochement et je me disais mais c'est pas normal qu'il y ait un rapprochement, c'est pas du tout mon genre d'homme, c'est pas, enfin j'ai pas à vivre ça, quoi. J'étais très bien à l'époque dans mon couple, donc il n'y avait pas à avoir ça. Et il s'avérait que c'est cette personne avec qui je cheminais au niveau spirituel, dans cette vie-là, il est homosexuel. Donc, je me disais, en plus, il n'y a rien, quoi. Je deviens folle, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette attirance incroyable? Et je voyais que de son côté, c'était difficilement gérable aussi. Mais je me disais, il y a un truc, quoi. Et jamais, il disait rien. Et il disait jamais rien. Et moi, j'ai continué à faire ce cheminement. Et on a fini, à un moment donné, par se retrouver au niveau astral, mais à un niveau... très lointain, en fait, donc sur notre ancienne vie qui remonta il y a très très longtemps, qui était un moment de l'Égypte antique, mais antique très très loin, hein, pas, on est à plus de 4500 ans. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'est cette personne-là qui était avec moi dans la matière. C'était cette personne d'il y a plus de 4000 ans qui m'avait tranché la gorge parce que j'avais été mariée de force et que j'avais eu un enfant et qu'il pensait que c'était pas le sien. Bref, il y avait eu tout un truc comme ça dans cette vie, toute une histoire comme ça très forte. Mais avant de me rendre compte de tout ça, effectivement, il y avait dans l'astral des rencontres et une forme de relation, oui. Et je pensais que c'était que de mon côté, puisqu'au départ, on n'en avait pas parlé. J'avais gardé ces sensations-là pour moi, me rendant compte quand même que de son côté, il se passait des choses. Mais je n'osais pas, moi, dire « oui, il se passe des trucs là-haut ». Jusqu'à un moment où lui a dit « écoute, là-haut, c'est OK, mais ici, c'est non ». Et là, je dis « ah non, mais l'enfoiré, quoi ». Ah ouais, là-haut, c'est OK, ici, c'est non, quoi. Donc, c'était perturbant, mais c'était très, très fort de l'autre côté, par contre. Mais c'était compliqué. Alors,
d'accord. Compliqué. Donc, je suis désolé, je vais mettre les pieds dans le plat, mais donc, cette personne, donc un homosexuel, donc dans le plan physique, rien, mais sur le plan astral, vous vous rencontriez et vous aviez des relations sexuelles dans l'astral, c'est ça?
Alors, c'est, je ne sais pas si on peut parler de relations sexuelles dans l'astral, parce que il n'y avait pas visuellement de contact de corps, mais il y avait une énergie qui se mélangeait. Et sur le corps, ça se répercutait comme si ça avait été un échange de ce type-là. Ouais. Mais au niveau astral, il n'y avait pas le rapprochement de corps. Tu vois?
Mais est-ce qu'il y avait cette sensation d'orgasme, justement?
Ah oui. Mais plus que ça, un milliard de fois plus puissant. À tel point que c'est la montée de Kundalini, en fait. C'est la montée de Kundalini. Donc c'était très puissant. C'est d'abord ce que j'avais pu ressentir, c'est une douleur, donc au niveau du chakra racine. Donc c'était douloureux, mais là dans le corps physique. Et après j'ai senti donc monter au niveau du deuxième chakra, et là c'est là où justement ça provoque un orgasme décuplé. Et ensuite ça monte au niveau des différents chakras, et là ça prend une autre dimension, en fait. Ça quitte la dimension sexuelle, ça devient vraiment je sais pas comment expliquer ça, je sais pas comment mettre deux mots là-dessus, parce que ça n'a plus rien à voir, en fait. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on peut connaître dans la matière.
C'est une sensation énergétique, mais qui envahit toutes les cellules de ton corps, en réalité.
Toutes les cellules de ton corps et tes différents champs, tes différents corps énergétiques. C'est comme si tes molécules se séparent. Je ne sais pas si c'est faire l'amour avec l'univers entier, quoi.
Alors, ça fait 45 minutes qu'on parle. Je vais, si tu veux bien, je vais donner la possibilité donc à nos auditeurs. Donc là, on est 75 personnes sur le canal, de poser des questions ou d'intervenir ou d'apporter un témoignage, si vous le souhaitez. Donc, si vous souhaitez intervenir, donc vous cliquez sur votre petit bonhomme bleu là pour lever la main. On vous donne la possibilité après d'activer votre micro. Et vous activez votre micro et vous pouvez parler. Donc voilà. Donc je vous donne la possibilité de le faire. On peut continuer en attendant que les gens se décident ou se mobilisent pour poser une question ou pour donner un témoignage. Mais donc pour en revenir à ton expérience, justement. Donc qu'est-ce qui te laisse penser que tout ça était bien réel, mais était juste une réalité sur un plan plus subtil?
Ce qui fait que c'était bien réel, c'est que sans échanger, parce que j'ai testé forcément, je me suis dit, est-ce que je deviens frappadingue ou est-ce que tout ça est réel, c'est que je ne disais rien à l'autre personne. Et c'est lui qui me ramenait des choses, qui me disait, voilà, il s'est passé telle chose. Et au bout d'un moment, j'ai fini par dire, faut arrêter, quoi, parce que ça devient...
Moi, je me sentais plus OK et surtout, je commençais à de plus en plus avoir des souvenirs de cette vie antérieure et je commençais à avoir envie de l'égorger, quoi. Donc, j'ai dit, il vaut mieux qu'on prenne un peu de distance et puis que je me ressente, que je prends de la hauteur et que je travaille justement ce karma. Et l'astral m'a permis justement d'avoir ce souvenir de vie antérieure et de pouvoir guérir un karma et du coup de pouvoir avancer, parce que finalement je me rends compte que la vie que j'ai aujourd'hui, c'est le reflet de cette vie que j'ai pu avoir il y a plusieurs milliers d'années, où je reconnais les personnes en fait, où je finis par reconnaître les personnes autour de moi, qui elles étaient et quel rôle elles jouaient au moment de cette vie-là, quoi.
Alors ça, c'est un autre sujet dont on a parlé, mais c'est bien qu'on en parle parce que tout est lié en réalité. Pour moi, c'est le sujet des reconnaissances d'âme. Donc, c'est en fait, d'autres âmes avec lesquelles on a traversé des vies dans les temps passés et qu'on se reconnaît justement dans la vie présente, ce qui crée souvent d'ailleurs des choses assez fortes. Enfin, bref, c'est une reconnaissance d'âme et qui finalement est vécue en partie donc à travers le champ astral. Alors moi j'ai envie de dire c'est presque des abus finalement sexuels que tu as vécu d'après ce que tu racontes, mais à travers l'astral.
Non, c'était pas des abus parce que il y avait le souvenir d'un amour très profond, donc c'était juste. Comme un vieux souvenir qui ne veut pas partir, quoi. Il n'y a pas eu d'abus ni d'être forcé à quoi que ce soit. Hein. C'était consenti des deux côtés.
Hein. D'accord. Alors, on a Nejmil qui souhaiterait intervenir ou poser une question, je ne sais pas. Nejmil, tu peux activer ton micro et prendre la parole.
Bonsoir, merci Léa, je trouve ça hyper passionnant. Par contre, je suis mauvaise élève parce que j'ai dû coucher ma fille qui a fait beaucoup de caprices, donc j'ai loupé les 45 minutes du début. Donc peut-être que je vais poser une question qui a déjà été posée. Ça serait en fait, comment tu définis l'astral par rapport au rêve?
Comment je définis l'astral par rapport
au rêve? Comment toi tu le définirais, tu vois? Comment tu fais la différence, tu vois?
Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure à Hervé, c'est que dans l'astral, tu fais ce que tu veux. C'est toi qui dessines, en fait. Tu ne regardes pas le film se dérouler devant tes yeux comme un rêve.
D'accord.
Un rêve, tu le regardes défiler et puis t'es juste
observateur. T'es un peu passif, quoi.
Voilà, t'es passif. Et dans l'astral, t'es actif. C'est toi qui dessines. Tu décides d'aller à tel endroit, tu décides de faire telle chose, tu décides de rentrer, comme on disait tout à l'heure avec Hervé, en sautant dans le vide, parce que ça va provoquer un réflexe au niveau physique et ton corps astral va du coup être rappelé automatiquement dans le corps. Donc il va y avoir un sursaut. Donc souvent, c'est quand on se réveille en sursaut au moment de s'endormir, ça a dû sans doute arriver à toutes les
personnes. Ah mais moi, ça m'arrive énormément jeune, hein, quand j'étais enfant. Ça m'arrive moins maintenant, mais ouais, comme une chute. C'est ça,
c'est ça. C'est
ouais,
ça.
Comme c'est si tu tombais.
C'est ça, c'est le corps astral qui rentre trop vite, en fait. Donc,
d'accord.
Ça provoque au corps physique un sursaut. Et on a l'impression d'avoir le cœur qui s'était arrêté. Enfin, ça...
C'est ça.
Je peux me permettre d'intervenir.
Oui.
En fait, justement, il y a des personnes qui ont théorisé d'une certaine façon le voyage astral. Il y a des livres de référence. Et en général, le rêve de vol. Ou donc le fait qu'on vole ou le rêve de chute sont souvent associés justement au voyage astral. Donc le rêve de vol, c'est que effectivement notre corps astral est sorti du corps physique, et le rêve de chute en général c'est le retour dans le corps physique. Et ça, c'est moi je l'ai vraiment vécu aussi personnellement. C'est une constante.
J'ai pas compris.
C'est une constante. Après, je dis pas peut-être qu'un jour vous pouvez rêver que vous volez et que vous n'êtes pas en dehors de votre corps. Peut-être, c'est peut-être possible. Mais en tout cas, d'une façon générale, pour moi, c'était ça, quoi. Vraiment, le rêve de vol, c'est parce que notre âme. Tu parlais de mouvement horizontal ou vertical, mais en fait, on a plus vraiment cette pesanteur qu'on ressent justement dans le plan physique, dans le plan astral, et donc on peut très facilement justement se mouvoir verticalement. Et ça, c'est vraiment caractéristique du voyage astral.
Oui, tu fais ce que tu veux. Si tu es conscient de l'autre côté, tu fais ce que tu veux. Si tu veux voler en battant des bras, tu vas voler en battant des bras. Il n'y a aucun problème, en fait. On n'a pas l'inconvénient du corps physique à déplacer. Donc, on fait ce qu'on a envie de faire. Et si on a envie de se jeter dans le vide et de ne pas pouvoir voler pour pouvoir rentrer, on se jette dans le vide et on ne vole pas pour pouvoir rentrer. On se fait peur, en fait. Moi, je me faisais peur pour rentrer.
Et est-ce que tu fais aussi une différence par rapport à la visualisation ou la projection de conscience? Ou est-ce que alors, c'est une alchimie de tout ça qui se fait en instantané?
Je pense que la visualisation, c'est une manière de créer une forme de futur. Des futurs, tu en as une infinité devant toi. Si tu vas donner l'énergie à telle direction, donc tu vas visualiser quelque chose, tu vas lui donner de l'énergie, tu vas le nourrir et du coup, tu vas le créer. Donc ça, c'est une projection. C'est pas, je sais pas si on peut parler d'astral dans ce cas-là, j'en sais rien. En fait. L'astral, il va te permettre de voyager dans le temps aussi. Mais le temps, en réalité, il n'existe pas réellement non plus. Après, c'est un autre sujet, mais le temps, finalement, il n'existe pas réellement. Puisque moi, quand je vivais cette vie antérieure, là, j'avais l'impression d'y être. J'avais pas l'impression.
Ouais, comme si c'était vraiment vrai, quoi, dans ta chair, dans les cellules.
Bah, c'était, oui, c'était vraiment vrai, puis, mais j'ai sur un autre plan. Sur un autre plan, donc à une autre époque. Mais finalement, cette vie-là, elle continue d'évoluer sur un plan parallèle.
Et ça t'a déjà permis de solutionner un problème dans cet espace-temps, ici et maintenant?
Oui, c'est ce que je disais juste avant. C'était
résoudre. Bah, je suis désolée, en fait. Je, comme je vous ai dit, je suis mauvaise élève. J'étais pas là.
Oui, ça m'a permis de comprendre ma vie d'aujourd'hui et d'avancer sur certains blocages que je pouvais avoir au niveau de mes échanges avec les gens, quoi. Donc ça m'a permis, oui, l'astral m'a aidé à avancer sur ma vie aujourd'hui, mais voilà, c'est pas un endroit où on va aller pour jouer. On le fait quand on est, comme on disait tout à l'heure, sur un plan horizontal, ou c'est au début un jeu. Forcément, on y va parce que c'est nouveau, on découvre des choses, on y fait ce qu'on veut, mais finalement, on se rend compte qu'on est, sur le même monde qu'ici. On va rencontrer des enfoirés autant qu'on en rencontre ici, et des gens bien ou pas bien. Enfin, après, ça reste un jugement, puisque on est dans une matrice, donc pour qu'il y ait le bien, il faut qu'il y ait le pas bien.
C'est alors justement... Léa, tu nous disais, tu nous parlais tout à l'heure que les choses avaient changé dans l'astral avec la crise Covid. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta vision par rapport à ça?
Ben, je trouve que c'est devenu un peu comme ici, en fait. Hein. Limite, il te faut un pass. Hein. Ça fait un peu ça, quoi. C'est mal fréquenté, tu fais plus les choses comme tu veux. Alors après, je ne sais pas si c'est par rapport au niveau de conscience dans l'astral, mais j'entends dire aussi pas mal autour de moi des gens qui vont aussi dans l'astral et disent en ce moment, il y a des trous partout, c'est trop être partout, donc il y a des entrées d'entités qui ne sont pas forcément bienveillantes. Il y a beaucoup de guerres aussi de l'autre côté. Donc on ne peut plus réellement... aller y travailler comme par exemple là sur une vie antérieure, ou alors il faut réussir à occulter tout ce qu'il y a autour. C'est comme s'il n'y avait plus... avant, pour moi, l'astral, il y avait par exemple des cases où on pouvait aller. Bon, ben là, je vais aller dans la case vie antérieure et puis je vais visiter telle chose, un peu comme les annales akashiques. Et puis, il y a une autre case où là, je vais juste aller me promener. Mais là, c'est comme si tous les murs étaient tombés, quoi. Donc, il y a tout qui se mélange et c'est complètement désordonné. Mais un peu le reflet de la société qu'on vit aujourd'hui, où les lois sont folles, où les murs tombent, les masques tombent, et où ça commence à être le grand n'importe quoi. Donc c'est cette sensation que j'ai moi. Après, ce n'est que ma sensation.
Oui, mais justement, elle est très intéressante, cette sensation, parce que donc, parmi là, les personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui écoutent, qui suivent une personne qu'on appelle le contacté Cobra, je ne sais pas si tu le connais. Et dans sa dernière mise à jour de situation planétaire, donc il parle beaucoup justement de cette guerre multidimensionnelle, en fait, que la Terre sur Terre, on ne fait que vivre une guerre par procuration entre forces de l'ombre et forces de la lumière, et qu'actuellement, il se passe justement des choses très puissantes sur le plan astral et éthérique, et à la surface de la planète. C'est-à-dire que pour nous, bon, bien sûr, il y a la crise Covid, mais cette guerre multidimensionnelle, elle est invisible pour l'immense majorité de la population, même si, en réalité, sur le plan éthérique et sur le plan astral, en ce moment, ça bouge de partout. Il y a beaucoup de conflits, de nettoyages, de confrontations, etc. Donc ça corroborerait, je dirais, ton ressenti, corroborerait les informations qui ont été tout dernièrement communiquées par le contacté Cobra.
Mmh. Oui, c'est sans doute qu'au niveau au-dessus de la toile d'araignée matricielle, je pense qu'il doit y avoir un sacré combat et que nous, on n'en a qu'un mince aperçu. Après, est-ce que c'est un aperçu que la conscience collective a créé, justement, puisqu'il faut que notre mental, forcément, ait des images, ait une représentation de tout ce qui peut se passer au niveau énergétique. Donc, peut-être que, inconsciemment, on a créé une guerre bactériologique, parce que c'est ce qui représentait mieux ce qui se passe au-dessus, je sais pas. Mais moi, c'est l'impression que j'ai, oui, effectivement, que c'est un peu la bagarre pour qu'on soit libéré ou qu'au moins on puisse monter en conscience et tout le monde n'est pas d'accord, quoi. Donc voilà, et nous, on est là, on peut faire qu'attendre et puis évoluer à notre niveau.
Alors, il y a Caroline qui souhaiterait intervenir. Vas-y, Caroline, tu peux activer ton micro. Caroline C.
Bonjour.
On t'écoute.
Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez.
Ah non. Alors attends. Par contre, là tu on t'entend pas. En fait, tu es très très distante. Est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro ou...
Alors, je vais essayer. Peut-être que c'est lié à mon téléphone. Est-ce que vous m'entendez mieux?
Un tout petit peu mieux. Essaye de parler le plus fort possible parce qu'on t'entend vraiment dans le fond. Je pense que pour ceux qui réécouteront l'émission, ça peut être compliqué. Mais vas-y.
Alors, j'essaye une dernière fois, si ça ne fonctionne pas, c'est lié à mon téléphone qui est un petit peu problématique. Vous m'entendez mieux, là?
Ouais, vas-y, si c'est une question, ça va aller.
Oui, c'est juste une question. Serait-il possible de vraiment expliquer plus en détail qu'est-ce qu'est l'astral et, par exemple, par rapport à la matrice? Les différents plans astraux sont-ils à l'intérieur de la matrice ou y a-t-il des plans qui permettent d'être à l'extérieur de la matrice? Je ne sais pas si ma question est claire et si vous m'avez entendu.
Alors oui, on t'a entendu. Je vais peut-être commencer justement à donner des éléments de réponse et Léa, je te laisserai compléter. Déjà, ce qu'on appelle l'astral, communément, c'est le troisième plan parmi les sept plans de la création. En fait, et c'est un plan, c'est quoi? C'est globalement une bande de fréquences, un niveau vibratoire, un spectre de fréquences. Le spectre de fréquences, je dirais, fondamental, c'est tout ce qui a trait au physique et à l'éthérique, ce qu'on appelle le plan matériel dans les sept plans de la création. J'ai dit le troisième, en fait, c'est le deuxième, puisque l'éthérique est considéré comme faisant partie du physique dans les sept plans de la création. Donc après, on a ce qu'on appelle effectivement le plan astral ou le plan émotionnel, donc qui est le deuxième plan de la création, donc qui vibre à une fréquence plus élevée que le plan physique et que le plan éthérique. Au-dessus de ça, on a ce qu'on appelle le plan, communément le plan mental, donc qui vibre encore une fois plus élevé que le plan astral, etc. Après, on a le bouddhique, atmique, on doit avoir le monadique et le divin, et je crois que j'en ai oublié un, bon bref, les sept plans de la création.
Hervé, j'ai mis dans le chat Révolution Vibratoire le schéma et l'article qui correspond, si ça peut t'aider.
Ah ben super, ben merci beaucoup Cindy. Donc voilà, mais tout ça pour
expliquer. En parallèle des Radio Pléiades, dans la chatroom, on répond à vos questions, on vous met des liens et informations complémentaires pour vous permettre de mieux suivre et de continuer à vous informer.
Voilà, génial, merci beaucoup Cindy. Donc voilà, donc il y a ces 7 plans de la création. Et en réalité, donc, un être humain, il est dans différents plans à la fois. J'ai envie de dire même qu'il est probablement dans tous les plans, même si les implants, justement, coupent certaines énergies et certains échanges entre les plans. Mais en fait, par contre, ce qu'on connaît le plus communément, c'est bien sûr, c'est notre corps physique. Le corps éthérique, on le découvre, par exemple, avec la photographie kirlienne qui permet de mettre en évidence le corps éthérique. Mais quand on fait de l'homéopathie, on soigne le corps éthérique, par exemple. Et puis après, au-delà de ça, on a le corps émotionnel. Donc, en fait, ce qu'on appelle le plan de l'astral, en fait, c'est là que se trouve notre corps émotionnel. Donc, on est tous, nuit et jour, en réalité, on vit tous dans l'astral. Enfin, une partie de nous-mêmes, donc la partie qui vibre à la fréquence de l'astral, se trouve dans l'astral. Et quand on ressent des émotions assez fortes, il y a des espèces de vagues d'énergie qui peuvent nous traverser, qui correspondent justement à ces énergies de l'astral, de notre corps astral. Donc voilà, donc tout ça pour dire que ce qu'on appelle l'astral, c'est juste un plan vibratoire particulier au-dessus du plan physique et éthérique, dans lequel se trouve justement la vie des émotions. Alors, je ne sais pas si, Léa, tu voulais intervenir par rapport à la question de Caroline.
Alors, Caroline demandait si il y avait des champs au-delà de la matrice. Alors, dans la matrice, on est prisonnier, en fait. Donc, il y a peut-être des champs au-delà de la matrice, mais en tout cas, on n'y a pas accès. Donc, nous, ce qu'on a accès pour l'instant, c'est tout ce qui est dans la matrice. Il faut sortir de la matrice pour savoir ce qu'il y a derrière. Mais pour l'instant, tant qu'on est là, on n'est pas. Enfin, il n'y a pas de possibilité d'aller de l'autre côté. Il n'y a pas possibilité de savoir ce qu'il y a de l'autre côté. On est un peu dans une prison haute sécurité. Hein. Donc on est surveillé.
Une prison haute sécurité et une prison multidimensionnelle. Parce que, alors, oui. En réalité, j'espère que je vais pas me perdre ou vous perdre, mais ce qu'on appelle, en fait, la matrice n'existe que sur les fréquences vibratoires où la dualité est possible. La dualité est possible dans le plan physique, sur l'éthérique, sur l'astral et une partie du plan mental. Sur le plan mental supérieur, la dualité n'est plus possible. Donc en réalité, cette prison multidimensionnelle, cette matrice dans laquelle on vit, elle s'arrête quelque part dans le plan, au niveau du plan mental, au niveau du plan mental supérieur. Donc quand on fait un voyage astral, effectivement, on est dans une prison avec des barbelés, des miradors. Les barbelés, c'est ce qu'on appelle le voile, la technologie du voile qui a tout autour de la planète Terre, qui nous empêche justement de faire un voyage astral en dehors de la coque astrale terrestre. Alors ça, je sais que ça peut choquer beaucoup de personnes parce que beaucoup prétendent aller faire des voyages astraux loin dans l'univers, dans d'autres planètes, sur Vénus, etc. On touche à la question de la traversée du voile et qui est quelque chose qui reste extrêmement difficile à l'heure actuelle, même si le voile s'est atténué. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, les barbelés, c'est le voile et les miradors, c'est les gardiens de la matrice, c'est les contrôleurs de la matrice. Et on en parlait tout à l'heure avec Léa, c'est-à-dire que lorsque justement vous vous élevez verticalement sur les plans astraux, vous avez tendance à vous rapprocher du voile quelque part, vous rapprocher de cette fréquence vibratoire qui vous permettrait de vous échapper, de faire une échappée de la matrice. Et ça, la matrice ne le veut pas, ne le souhaite pas. Et ces gardiens, donc c'est l'agent Smith, hein, il est personnalisé dans la personne de l'agent Smith dans le film Matrix. Il est là justement pour vous empêcher de vous échapper de cette matrice et va tout faire pour rabaisser votre niveau vibratoire pour vous empêcher s'est échappé en dehors de la matrice. Donc voilà, enfin, après c'est la vision que j'en ai, c'est la vision que j'en donne, je ne peux pas imposer mon point de vue, mais je ne sais pas si certains d'entre vous veulent compléter, mais je ne sais pas, Caroline, déjà, est-ce que ça clarifie un petit peu ou est-ce que ça embrume?
Tout à fait, ça clarifie extrêmement. J'ai trouvé tout cet échange, enfin tout ce que vous avez évoqué, extrêmement intéressant parce que souvent le voyage astral est perçu comme quelque chose qui me paraît complètement illusoire, quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité qui fait que nous sommes des prisonniers quelque part.
Alors, en fait, oui, on t'a entendu. En fait, si tu veux, et c'est ce que voulait dire Léa tout à l'heure, je te laisserai compléter, c'est que quand on parle de la notion de théâtre de l'astral, c'est vraiment au sens propre qu'il faut comprendre la chose. C'est vraiment des scènes de théâtre. On a des scènes, on a des décors, en carton-pâte, on a des acteurs, on a des scénarios, des metteurs en scène. Je sais que ça peut vous sembler extraordinaire ce que je vous dis là, mais en tout cas, moi, c'est mon vécu. Je pense que c'est une partie du vécu de Léa. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est fait justement dans l'astral pour nous faire continuer à croire à l'illusion de la liberté. Tout est fait, donc on nous construit des décors qui peuvent ressembler justement à des planètes lointaines, à des choses incroyables qu'on ne pourrait voir que dans des univers très lointains, pour nous laisser croire que notre âme est libre et peut aller voyager dans des univers lointains. Mais en réalité, notre âme est prisonnière dans ce qu'on appelle la matrice. Et en aucun cas, on ne laisse entrer ou sortir, enfin, on ne laisse sortir des âmes prisonnières dans la matrice, on les laisse entrer justement que si elles signent des contrats pour accepter cet emprisonnement, les contrats qu'on évoquait tout à l'heure avec Léa. Léa, je t'invite à compléter.
Oui, c'est complètement ça. Hein. Moi, quand je parlais des créations de villes avec des vieilles pierres, je me suis rendu compte après qu'on me proposait ça à chaque fois parce que justement, les gardiens, ce qu'on peut appeler les gardiens, avaient repéré que j'aimais ça. Donc à chaque fois, ça m'était servi sur un plateau jusqu'au moment où je me suis dit, mais moi, je vais créer autrement, je vais créer autre chose, je vais faire d'autres choses à d'autres endroits, je vais détruire ça. Et là, ça a commencé à plus aller. Donc effectivement, dans l'astral, on nous sert sur un plateau doré ce qui va nous plaire le plus. Pour que justement, on a cette sensation de liberté. En plus, on va générer une émotion et un sentiment de bien-être. Donc on va créer une vibration qui va nourrir certaines entités. C'est un décor, c'est un théâtre. Et à partir du moment où on va vouloir créer réellement nous-mêmes, où on va vouloir en sortir, puisqu'au bout d'un moment, on en a fait le tour et puis on veut savoir ce qu'il y a derrière, justement. Donc, on veut détruire le décor pour voir ce qu'il y a derrière. Là, ça commence à être gênant. Là, on commence à embêter le monde. Mais je ne retrouve plus le titre de ce dessin animé là.
On l'a trouvé. On a fait appel à l'intelligence collective. On a toute une équipe qui travaille derrière le rideau. Tu t'imagines pas, Léa. Alors, je pense que ça doit s'appeler Coraline, non? C'est pas ça?
Non, c'est pas ça.
Non, un film d'animation.
Alors, je vais récapituler. On a comme ce qui a circulé. Il y a Coraline, Clémentine et Dreams.
Non. C'est un film assez récent. Hein. Je me demande si ça s'appelait pas tout simplement Dreams.
Oui, il y en a un qui a parlé de Dreams.
Ouais. Ben, je crois que c'était Dreams.
Ouais. Il me semble. D'accord, c'est Dreams. Ok. Bon, ben.
Il me semble voilà, que bon, c'est Dreams. Ouais. Et il est fabuleux. Il parle exactement de ça, de l'astral vécu à travers les yeux d'un enfant.
Ben, on va aller le voir. Moi, je voulais faire un petit parallèle justement parce que, donc, on parle de théâtre de l'astral, et puis après, je donnerai la parole à Jean-Claude là, qui va intervenir. Je voudrais faire un parallèle entre le plan physique et le plan astral, justement. Donc, sur le plan physique, la prison, elle est mise en place aussi sur le plan physique, puisqu'on vous décourage d'acquérir certaines connaissances qui pourraient vous libérer. Par exemple, je vais parler de la Mivilude, vous savez, cet organisme de lutte contre les sectes qui vous fait croire que toute organisation, groupement, société qui parle finalement de notre côté spirituel, de notre multidimensionnalité, tout ça c'est des sectes, il faut s'en désintéresser, c'est très dangereux pour votre santé mentale. Donc ça c'est, on va dire, c'est une barrière qui vous est mise dans le plan physique. Mais si vous êtes, malgré tout, si vous avez franchi ces barrières, que vous savez que tout ce qui raconte cette Mivilude et compagnie, ce sont des âneries et que ce ne sont pas des sectes, mais il y a bien des groupes spirituels qui vous aident à développer votre force spirituelle, vous allez vous retrouver un jour ou l'autre conscient dans l'astral. Et conscient dans l'astral, bah, là, du coup, la Mivilude, elle ne peut plus rien faire. Donc, il faut inventer de nouveaux stratagèmes pour continuer à vous faire croire qu'il n'y a rien d'autre à voir au-delà du décor qu'on vous propose. Et c'est bien ça la fonction de cette coque astrale. Moi, j'appelle ça la coque astrale, donc c'est-à-dire l'astral à l'intérieur de la matrice. C'est pour décourager les chercheurs de vérité spirituelle que vous êtes qui ont franchi les premières étapes pour essayer et vous empêcher de franchir les étapes suivantes et notamment celles qui consisteraient à vouloir s'échapper de la matrice et d'aller échanger des informations avec l'extérieur de la matrice, des informations qui peuvent être très précieuses justement pour pouvoir saper cette matrice de l'intérieur. Donc voilà, je voulais faire cette petite comparaison entre les barrières qui peuvent nous être mises sur le plan physique versus celles qui sont mises sur le plan astral et que l'on méconnaît pour la majeure partie d'entre nous. Alors, Jean-Claude souhaitait intervenir. Tu peux activer ton micro, Jean-Claude.
Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je voulais intervenir pour parler d'une expérience. Moi-même, j'ai eu une expérience amoureuse avec une entité, une femme de 35 ans, qui a été gazée pendant la guerre. Et elle est tombée amoureuse de moi et m'a embarqué avec elle dans l'astral. Et ce soir, vous m'apportez un élément nouveau parce que j'ai fait quelque chose que je ne comprenais pas. Et cette histoire de théâtre me convient énormément parce que je me suis énervé dans l'astral avec elle et j'ai commencé à casser tout le théâtre qui était autour de moi. Alors, je croyais que je faisais ça dans la réalité, en fait. Je pensais que j'avais fait ça quelque part. Et là, ce soir, vous m'apportez une précision qui m'arrange énormément. Donc, effectivement, casser un décor, moi, ça me va bien. Et c'est vrai que j'ai eu une colère énorme et j'ai tout envoyé balader comme si c'était des gros, gros cartons qui étaient entassés, empilés quelque part. Et l'entité, dans cette colère-là, m'a ramené carrément dans mon sommeil, m'a réveillé dans mon sommeil. Elle m'a carrément attrapé les cuisses, elle a serré très fort sur mes cuisses qui m'ont permis de me réveiller après. Mais donc moi, maintenant, je sais ce qui s'est passé grâce à votre soirée de ce soir.
Eh bien, super. Ben, c'est un témoignage super intéressant, Jean-Claude. Léa, tu veux intervenir ?
Non, ben, je suis contente que ça a permis à Jean-Claude d'éclaircir certainement une zone obscure de ce qui avait pu se passer de l'autre côté.
Donc, ce que je voulais préciser aussi, au niveau de la relation amoureuse, c'est vrai que je n'ai jamais eu de rapport sexuel avec elle de quelques ordres que ce soit. Par contre, j'ai ressenti de la vibration. C'est voilà. Un échange énergétique entre nous, en fait.
Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, où il n'y a pas le même phénomène que dans la matière. Il n'y a pas besoin de ce rapport physique, en fait. Ça se passe vraiment autrement, d'une autre manière et d'une manière beaucoup plus forte et plus intense, en fait. C'est que de l'énergie. C'est que de l'énergie qui circule. Alors, peut-être que finalement, dans l'astral, on envoie une projection mentale qui fait qu'on a une forme de corps humaine, mais finalement, peut-être que pas du tout. Peut-être qu'on est juste une forme énergétique qui va être ovoïde. Ça c'est un peu le grand duel entre le mental et les projections qu'on peut donner pour se rassurer, justement. Mais c'est énergétique. C'est énergétique et c'est beaucoup plus fort énergétique que ça ne l'est physiquement.
Mais alors, une telle relation, justement, dans l'astral, est-ce que c'est tromper son vrai partenaire dans le plan physique ?
Alors, merci Hervé. moi, je pense qu'après, ça va dépendre de la vision qu'on a justement du couple, de la vision qu'on a de l'échange sexuel, de la vision de ce qui s'y passe. Moi, je sais que quand ça arrivait, je sais que de l'autre côté, c'était moi à une autre époque. C'était pas moi aujourd'hui. C'était moi avec lui à une autre époque. Donc, ça ne faisait pas moi de moi quelqu'un qui ait trompé mon mari, puisqu'ici, je vivais qu'avec lui. Donc, c'était vraiment ce lien autre époque. Par contre, ça a posé des problèmes quand lui d'aujourd'hui est venu se mêler un peu trop de ce qui se passe dans la chambre. Donc là, j'ai dit ça, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Donc, faut vraiment réussir à différencier de voilà ce que vous faites, la vision que vous avez du couple, de l'amour. Enfin, il y a des gens ici dans la matière qui vont faire des couples à trois. Hein. Ils appellent ça des troubles. Hein, donc, ça leur pose pas de problème. Donc, ça va vraiment être la vision que vous avez du couple et la vision de ce que vous faites au niveau astral. De la conscience que vous avez de si vous êtes OK avec les choses, ben ça vous regarde quoi après. Ça va vraiment être la vision de chacun, je pense.
Après, merci, bon, d'avoir joué le jeu, de répondre à cette question un peu bizarre, j'en conviens. Alors, il y a Marie-Louise qui souhaitait intervenir. Peut-être va-t-elle nous parler de la vision gnostique, je ne sais pas. Marie-Louise, bienvenue, tu peux activer ton micro.
Oui, bonsoir Hervé, bonsoir Léa, bonsoir tout le monde. En fait, moi je voudrais aussi remercier Léa pour toutes les précisions qu'elle apporte parce que, en fait, ça fait un petit temps que je me pose des questions par rapport à mes rêves. Bon, il fut une époque où j'ai eu des rêves conscients, où je volais dans l'astral et la façon dont je volais, c'était tout à fait propre à ce que je faisais quand j'étais jeune. Donc, j'avais appris beaucoup de natation. Et pour pouvoir voler dans l'astral, ben, en fait, je faisais les mouvements de la brasse. Donc, je trouvais que j'étais peut-être un peu drôle parce que, bon, voilà. Mais en tous les cas, j'ai beaucoup eu des rêves conscients où je traversais les murs. Et j'allais visiter différents endroits de maison, etc. Et puis, j'ai eu des rêves prémonitoires aussi. Mais ça fait un petit temps, et c'est vrai que c'est depuis le Covid, en fait, que je ne me souviens plus de mes rêves. Et là, je me suis dit, ça c'est quand même bizarre. Mais par contre, le matin, je me réveille, où je sens que c'était un rêve très agité, et... émotionnellement, comment veux-je dire, donc je ne me sens pas très très bien. Et on appelait ça dans l'enseignement gnostique, par exemple, un rêve, il y a un goût psychologique qui permet de pouvoir analyser ce rêve et le souvenir et de pouvoir l'analyser pour comprendre un petit peu le message du rêve en fait. Mais ici, je me souviens très rarement de mes rêves et je me culpabilisais un petit peu parce que je me disais, en fait, c'est parce que ma conscience, sans doute, s'endort peut-être de plus en plus ou je ne fais pas assez de travail conscient de la journée. Hein, je ne suis pas assez consciente parce que je suis fort dans le mental. Mais en fait, non, voilà, je trouve que vous avez apporté une précision qui me permet de sortir déjà de cette culpabilité et de pouvoir avoir une autre compréhension de l'astral. Parce que parfois, par contre, quand je m'endors, je vois des tas de choses, des personnages qui défilent comme ça devant mes yeux, mais je me dis, mais quel rapport est-ce que, ou des images comme ça, mais ça n'a aucun rapport avec ce que je suis, ce que je vis, etc. Et là, je commence à comprendre que c'est vraiment ce côté théâtral. Où on est prisonnier dans cette matrice, même au niveau astral. Parce que dans l'enseignement, on nous faisait passer l'astral pour un moyen, et c'était important, voilà, de pouvoir éveiller sa conscience ici, dans le plan physique, pour avoir cette conscience claire aussi dans l'astral. Donc, si on ne l'a pas dans le plan physique, on ne sait pas l'avoir dans l'astral. Et pour pouvoir aussi diriger son rêve et, comme vous avez dit, donc aller visiter des endroits, des vies antérieures, etc. Et l'astral nous donne des indications qu'on se trouve dans cette autre dimension. Comme j'expliquais à ta radio Pléiade, Hervé, donc sur l'astral en question, ben voilà, c'est tirer sur son doigt, tirer, faire un saut, etc., qui permet de, si on reste un peu plus en l'air, on est beaucoup plus léger. Et là, on peut se dire, ah ben oui, si on est conscient, on peut diriger son rêve. Et là, on est en pleine conscience. Mais c'est vrai que j'ai eu aussi, un rêve, et je ne me suis pas rappelé le matin, du mantra en question, où j'ai sans doute été attaquée, où, et j'ai, spontanément sorti quelque chose, et ça s'est arrêté. Mais ce mantra, je n'ai pas eu de possibilité de m'en souvenir, au retour. Donc, on peut faire aussi des choses malgré tout. Par rapport à cet enseignement, même si ce n'est pas ce qu'on a appris, cet enseignement peut continuer. Mais là, maintenant, je trouve que ça n'est plus possible. Parce que justement, sans doute, comme vous avez expliqué, y a tout, tout est mélangé, et qui fait que ça devient pour moi, en tous les cas, beaucoup plus difficile d'être plus conscient, même si. Parfois, je m'en souviens et alors je peux analyser. Et là, oui, ce serait peut-être une question que j'aurais à vous poser. Quand on se souvient d'un rêve, et pour moi, ce rêve donne un message, comment est-ce qu'on peut appeler ça alors? Puisque quand on revient, on se souvient du rêve qu'on a fait. Et on peut le traduire, je veux dire l'expliquer, le traduire et découvrir qu'il y a quelque chose, un message qui nous est donné. Ça n'a pas été un rêve conscient. J'ai rêvé, par exemple, l'autre jour que je prenais le train et que, comment donc, je n'étais pas sur la bonne voie, donc je devais aller voie 5. Et puis, comment donc, il y avait des tas de gens. Et puis après, je ne sais plus très bien. Je sais bien que j'ai mangé une glace, mais il y avait eu un autre moment où j'étais très bien. Donc, quand je suis revenue, aujourd'hui, c'est un peu fouillis, hein, ce rêve. Mais le jour où j'ai fait ce rêve-là, quand je me suis réveillée, c'était beaucoup plus clair. Et j'ai pu me rendre compte aussi dans la journée qu'il y a eu des choses, des émotions que j'ai eues dans ce rêve-là, que j'ai retrouvées dans la journée. Comment est-ce qu'on peut appeler alors ce rêve-là?
Ben
Bref,
là, on verra
prémonitoire.
comme ça. Non, là, on va plus être sur un mouvement de l'inconscient. On va être sur du mental, en fait. On n'est pas sur de l'astral. On est sur du rêve. On est sur la psyché humaine, en fait. On n'est pas sur une sortie astrale. En fait, il faut réussir à différencier le rêve, donc l'information de l'inconscient qui va venir essayer de te donner un message sur des choses à travailler, peut-être de ta vie de tous les jours à travers un rêve, mais ça n'a rien à voir avec une sortie astrale. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Tu as le rêve qui va être le défilé d'un film, et puis tu vas avoir la sortie astrale où tu vas y faire ce que tu veux, c'est différent. Là, il me semblerait que ce que tu racontes, c'était un rêve. C'était pas une sortie astrale. Une sortie astrale, il n'y a pas réellement de, il n'y a rien à analyser, hein. T'es sorti et puis t'as fait telle ou telle chose. Le rêve, il va effectivement venir donner un message un message de l'inconscient, en fait. Et il y a
Pour dire les choses autrement, donc pour ceux qui, enfin pour essayer d'apprendre à discerner le rêve de la sortie astrale. Alors déjà, ce que tu disais, Marie-Louise, tout à l'heure, c'est super important de développer sa force spirituelle. Parce que sans développement de cette force spirituelle, on a vraiment du mal à discerner le rêve du voyage astral. Et alors le rêve, en général, ça va être justement un repli sur soi. C'est-à-dire qu'on va être dans une lecture quelque part de notre inconscient. On va tourner entre des aspects de l'inconscient, entre des aspects de la physiologie. Enfin, je pense que vous avez tous eu des rêves aussi en lien avec votre physiologie, enfin, le fait de manger ou de digérer ou d'avoir envie d'aller aux toilettes. Ça crée des rêves, je dirais, qui sont bas de gamme quelque part, des rêves physiologiques, mais on est dans un repli sur soi. Quand on est dans une sortie astrale, En fait, c'est un peu comme si vous partiez en promenade dans votre corps physique. Vous avez vos sens qui sont ouverts. Vous êtes ouvert sur l'extérieur, c'est-à-dire mais de l'extérieur du monde astral. Vous n'êtes plus refermé sur vous-même. Et donc, il y a une certaine cohérence qui se développe. Vous avez des sensations, vous pouvez toucher, vous pouvez sentir, vous pouvez voir. Il y a une cohérence, vous pouvez vous déplacer, donc voir les décors sous différentes perspectives et puis commencer à essayer de réfléchir, comprendre. Alors, donc, c'est pas du tout la même chose qu'un rêve où on est vraiment dans un mode de repli sur soi.
Parce que moi, ce que j'ai appris, et c'est peut-être là toute la différence, effectivement, que tu fais bien de préciser. Moi, ce que j'ai appris dans l'enseignement gnostique, c'est que le rêve se passait quand même dans l'astral. C'est dans le monde astral.
Non, mais justement.
C'est pas un voyage astral, hein, d'accord, je suis bien d'accord. C'est pas un voyage astral, mais c'est dans la quatrième dimension que ça se passe. C'est pas juste, alors, pour toi.
Alors, j'aurais dû préciser, mais Léa, tu compléteras si tu veux. La notion de voyage astral, c'est qu'il y a vraiment le corps astral qui part en vadrouille. Ceci étant, c'est vrai que si on suit par exemple les enseignements spirituels de Rudolf Steiner, donc il nous explique que de toute façon, nos corps énergétiques, ils ont besoin de se détacher du corps physique pendant la nuit pour pouvoir reprendre des forces reprendre les vibrations de leur environnement, de l'environnement éthérique, de l'environnement astral, pour pouvoir après insuffler cette force dans la journée, dans la chair, dans le plan matériel, parce que le plan matériel en soi, lui, il a besoin d'être nourri. En fait, s'il n'y avait pas nos corps spirituels, enfin nos corps énergétiques, nous ne serions qu'un cadavre, pardonnez-moi l'expression. Donc, ce détachement, un tant soit peu, du corps énergétique, du corps physique, permet justement de venir se nourrir sur le plan éthérique ou sur le plan astral. Mais il reste à proximité, j'ai envie de dire. Mais même en restant à proximité, ce détachement permet d'avoir des sensations astrales. Mais ce ne sont que des sensations astrales. Après, l'intérêt du voyage astral, c'est vraiment le voyage en soi. Tu veux, tu peux avoir des sensations astrales en ayant ton corps astral légèrement décollé de ton corps physique, mais ton corps astral reste au-dessus de ton lit, dans ta maison, et ne bouge pas. Quand on parle de voyage astral, il y a vraiment cette notion de déplacement dans l'espace astral.
Je volais alors, ou que j'essayais de faire les exercices en sortie astrale, et puis que je prenais conscience que j'étais dans l'astral, et alors là que je dirigeais mon rêve. C'est ça que tu veux dire?
Nul ne peut savoir mieux que toi, puisque c'est ton discernement qui te le dira, si tu es dans un rêve banal, entre guillemets, ou dans une sortie astrale. Et seul, effectivement, et c'est pour ça qu'il est important de développer cette force spirituelle pour avoir ce discernement. Moi, je ne connais pas, je ne sais pas. Bien évidemment, je ne peux pas répondre à ta place. Alors, il y a plein de questions, excusez-moi, il y a plein de questions qui fusent, je vais essayer de les prendre. Oui.
Merci, merci beaucoup.
Merci beaucoup Marie-Louise. Alors il y avait Gérard qui voulait parler et je ne l'ai pas pris à temps, mais vas-y Gérard.
Ben, écoute, bonsoir. Ouais. Alors moi je voulais apporter peut-être une précision que pour moi personnellement, par rapport à la 3D qu'on vit en ce moment, avec ce qu'on vit aujourd'hui dans la matrice, c'est que nous avons la capacité de sortir de cette matrice. À partir du moment qu'on se décide vraiment de sortir de cette matrice. Et je pense qu'on a toutes les capacités de le faire. Et si on travaille au mieux, c'est-à-dire chaque jour on fait de notre mieux pour contacter notre âme, que je considère qu'il n'y a aucune limite, que notre âme, est à zéro limite. Elle n'est pas coincée par la matrice, c'est-à-dire qu'elle est entièrement libre, elle est liée directement au créateur. Et je pense que si de façon intellectuelle on se décide vraiment d'aller contacter l'énergie de notre âme, c'est-à-dire qu'on est vraiment décidé. Et lorsqu'on fait un voyage astral, c'est-à-dire la nuit en général, on peut faire un voyage astral, on peut voyager, c'est-à-dire qu'on peut maîtriser, dans l'absolu, on peut maîtriser notre voyage, c'est-à-dire qu'on peut prendre telle et telle direction, et en fait, on peut traverser la matière, etc., etc. On peut faire beaucoup de choses, c'est-à-dire de façon illimitée, à une seule condition, qu'on décide de traverser le voile en conscience et en étant décidé. Voilà, c'était pour moi, il y avait zéro limite, je parle bien dans l'absolu, c'est-à-dire que j'y arrive pas tout le temps, de temps en temps, parfois, des fractions de secondes, je peux contacter mon âme, mais c'est-à-dire c'est un vrai travail de tous les jours. Mais ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'on dépasse l'auto-limitation et la limitation collective. Voilà. Alors ça, c'était mon partage, que disons que dans l'absolu, on est capable de tout faire et d'être, disons, entièrement libre. Et pour moi, la vraie liberté est donc la base d'un nouveau monde sans limite, avec des capacités intellectuelles, c'est-à-dire même spirituelles et même, disons, matérielles aussi, avec des technologies nouvelles. Donc, c'est simplement se décider de traverser toutes donc les limites qui sont proposées par la peur, etc., etc. C'est qu'on a la capacité de dépasser tout ça. Ben voilà, merci. C'était mon témoignage. Merci à vous.
Merci beaucoup, Gérard. Léa, tu souhaites intervenir? Moi, je sais qu'on ne partage pas tout à fait le point de vue de Gérard, mais ce n'est pas grave. Hein, on est là justement pour échanger. Moi, personnellement, j'ai cherché toute ma vie à traverser le voile. J'ai fait des toutes petites percées à des moments très particuliers, dans des circonstances très très particulières, et je suis intimement convaincu que c'est une barrière qui nous est mise indépendamment de nous, et qu'il y a les implants qui nous empêchent justement de faire tout ce qu'on voudrait faire. Léa, tu souhaiterais intervenir par rapport à ce que veut dire Gérard?
Ben moi, je suis assez d'accord avec toi. On peut tout faire, oui, dans la matrice, on peut tout faire au niveau astral, mais sortir aussi facilement de la matrice, personnellement, je pense qu'on serait... si on arrivait à contacter, moi je ne vais pas parler d'âme, mais notre esprit divin, la puissance serait tellement forte que notre corps physique de carbone serait automatiquement brûlé. On terminerait en poussière tellement l'énergie est forte. Donc après, ce n'est que mon ressenti et un vague souvenir d'une dernière vie en Égypte que j'ai pu avoir, où on avait justement encore accès à ces allées et venues sur Terre et ailleurs, juste avant qu'on soit enfermé. Donc pour moi, non, je te rejoins plus, toi Hervé. Après Gérard, oui, pourquoi pas, c'est aussi... on a chacun le droit d'avoir ses convictions. Et puis, je n'ai pas la vérité absolue et je demande à personne de croire ce que je dis. C'est juste un ressenti, en fait. C'est juste un ressenti que je partage là, ce soir, et où je vais plus rejoindre Hervé que Gérard. Mais après, chacun voit les choses comme bon lui semble, j'ai envie de dire.
Le droit de réponse, Gérard?
Ouais, oui. ce que j'ai voulu préciser, bah bien sûr, j'ai des limites, j'ai mes auto-limites et j'ai les limites extérieures. Mais donc déjà de façon intellectuelle, c'est-à-dire que je sais que j'ai les capacités de dépasser mes propres limites et les limites qui sont proposées aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis décidé à aller sur ce chemin. Donc en fait, c'est un engagement personnel. Et je sais que je suis capable de dépasser, disons, cette montagne, disons, à dépasser. C'est-à-dire que dans l'absolu, je suis déjà rendu en esprit en haut de la montagne. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, je me donne toutes les possibilités de trouver le passage. Voilà. Autrement, si on se donne des auto-limitations, ok, d'accord, elles existent. Et si on dit que, disons, qu'on a des barrières, on a des barbelés, etc., donc ça permet aussi de ne pas dépasser nos propres limites. Donc à partir de là, c'est-à-dire en esprit, je décide que je suis déjà rendu au sommet de la montagne. Donc pour moi, je considère que le passage est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Vous comprenez? C'est-à-dire que je m'engage sur ce chemin de dépasser toutes les limites. Okay. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué.
Oui, très bien. Non, il n'y a pas de problème. Et puis encore une fois, hein, on ne prétend pas détenir la vérité. Hein. L'astral, c'est avant tout une question d'expérience personnelle. Oui. Voilà. Ouais. Alors, il y a pas mal de gens qui souhaitaient intervenir. Il y en a qui interviennent aussi dans le chat en parallèle. Alors, il y a une remarque de Shun, enfin une question. Nos amis galactiques sont-ils prisonniers de cette matrice? Je prends la question parce qu'elle m'intéresse. Alors déjà, quand on parle de galactiques, effectivement, alors si tu dis nos amis galactiques, on va dire donc c'est les galactiques positifs, parce que dans la matrice, il y a beaucoup de galactiques négatifs, et on parle notamment beaucoup des reptiliens qui sont très présents sur le plan éthérique et sur le plan astral. On n'en a pas beaucoup parlé, mais ils nous influencent, enfin certains d'entre nous, dans notre quotidien. Mais en tout cas, les galactiques positifs, il y en a dans la matrice, oui. Et il y en a des prisonniers, c'est ce qu'on appelle des otages. Et on a fait effectivement à plusieurs reprises des méditations par rapport à ça. Il reste encore des otages de galactiques qui sont prisonniers dans la matrice. Alors je suis désolé, hein, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce que je dis là. Hein. Ça, c'est mes convictions intimes et puis par rapport aux informations du contact Ecobra. Mais nos amis galactiques, justement, sont avant tout à l'extérieur de la matrice et sont là justement pour nous aider à déconstruire cette matrice, détruire même cette matrice. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ce voile d'ailleurs dont je parlais tout à l'heure, je donnais l'exemple des barbelés, mais c'est un mauvais exemple parce qu'en réalité, c'est une barrière électromagnétique. Hein, le voile autour de la Terre qui nous empêche les contacts justement avec les galactiques positifs qui nous aident d'ailleurs, qui pourraient nous aider grandement. C'est pour ça que les contrôleurs de la matrice ne veulent pas que nous soyons en contact avec eux. Donc cette barrière est une barrière électromagnétique. L'image des barbelés n'était qu'une image. Donc voilà, donc il y a bien des galactiques prisonniers de cette matrice, effectivement. Il y a des âmes humaines et il y a des âmes de différentes origines stellaires. Et peut-être vous êtes des âmes de différentes origines stellaires, comme Cindy l'indiquait elle-même en présentation de cette radio. Alors le problème, c'est que les mains levées se désactivent au bout d'un certain moment. Oui, il y avait Guillaume qui souhaitait prendre la parole. Tu peux activer ton micro, Guillaume.
Oui, bonjour, c'est Guillaume. J'ai écrit un peu différemment. Je trouve ça super intéressant, justement, toutes vos expériences de sortie astrale et tout, parce que moi, j'ai toujours... espérer faire ça un jour, mais bon, sans jamais en avoir la volonté assez forte pour le faire. Et j'ai appris beaucoup de choses mentalement, on va dire, et je me dis, en fait, au final, est-ce que toutes ces limitations, toutes ces forces obscures, ces forces du bien, etc., on ne serait pas juste dans un vaste jeu pour justement trouver la sortie, et tout cela serait justement le plan divin pour nous faire évoluer, en fait. Et ça serait juste une sorte de grand jeu où c'est un peu comme un labyrinthe et on doit trouver la sortie. Voilà, c'est ma petite intervention. Je me posais la question. Merci.
Ouais, super. Bah, écoute, Cindy, avec tes pouvoirs magiques, tu peux mettre dans le chat le lien que j'ai fait sur l'escape game.
C'est ça?
Voilà.
Ouais, c'est ça. Je pensais. Donc, en fait, oui, je vais le mettre, pas de souci. On peut trouver un article écrit par Hervé sur son site Révolution Vibratoire qui compare notre vie sur la Terre à un véritable escape game. Voilà.
Et alors, pour aller juste un tout petit peu plus loin, en fait, il y a deux visions qui s'affrontent. En fait, pour les gens qui s'intéressent à ça, il y a une vision effectivement d'une planète école. Donc, les âmes ont été projetées sur cette planète. On est venu s'incarner sur cette planète pour vivre des expériences pour pouvoir évoluer spirituellement. Cette école-là, nous, on l'appelle l'école New Age infiltrée pour justement nous détourner de notre puissance spirituelle. Et moi, l'école à laquelle j'adhère, elle est un petit peu... la théorie à laquelle j'adhère, elle est un peu différente. C'est que notre planète n'est pas une planète école, mais bien une planète prison. Et les âmes qui sont présentes justement dans cette planète prison peuvent être, on va dire, de façon très schématique, très caricaturale, de deux origines. Ce sont soit des âmes qui ont été capturées et qui ont été mises dans cette planète prison pour alimenter le système matriciel, soit des âmes qui sont venues intentionnellement au sein de cette matrice, justement, pour participer à la sape de cette matrice. Et je pense qu'il est très probable qu'une bonne majorité d'entre vous font partie de ces gens-là. Vous avez fait le choix délibéré de venir dans cette matrice pour la libérer, en fait. Voilà. Donc, il y a deux écoles qui s'affrontent. planète école ou planète prison. Et vous avez bien compris que notre positionnement, quand je dis notre, l'équipe d'animateurs et puis tout ce qui est dans la mouvance du contact Ecobra, on est intimement convaincu qu'on vit dans une planète prison. Voilà. Alors, il y a Isa Bondard qui souhaitait prendre la parole. Vas-y, Isa, tu peux activer ton micro.
Oui, bonsoir. Moi, je suis peut-être hors sujet avec la question que je vais poser, mais vous avez parlé de...
Parle bien fort, Isa.
Ah oui, vous m'entendez là mieux, là ?
Parle bien fort. On t'entend, mais c'est faiblement.
D'accord. Vous avez parlé surtout de sortie astrale durant la nuit, durant le sommeil. Est-ce que, en étant éveillé, totalement éveillé, donc en pleine journée, ça peut arriver ?
Léa, qu'en penses-tu ?
Ben, moi, je pense que oui, en état méditatif, tu peux très bien faire une sortie astrale.
Sans être méditatif, je vais juste expliquer ce qui m'est arrivé. J'étais en Irlande et je rentre dans une église. Il y avait du monde dans l'église et je m'arrête devant une statue. Alors, je ne sais pas qui c'était. Et d'un seul coup, je me suis mise à pleurer, les larmes qui coulaient. La statue a commencé à devenir très lumineuse. Et en fait, je me suis sentie soulevée du corps, à peu près, je sais pas, 30 cm de hauteur. Et ça a duré, et c'était très éblouissant. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré. Et en fait, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Voilà, donc je voulais savoir ce que c'était.
Bah, je pense que tu as la réponse à ta question. En fait, on parle d'état méditatif. Effectivement, quand on veut le faire de façon volontaire, je pense qu'effectivement, c'est possible. Moyennant, enfin, il y a des exercices qui sont proposés, des exercices de respiration, de visualisation, de projection, des choses comme ça, pour le faire en état de conscience. Mais je pense que dans des états émotionnels particuliers, moi, j'ai vécu en fait un état émotionnel très puissant, mais dans négatif, enfin, c'est un petit peu ce que tu, voilà, tu parlais de pleurer, mais un état de très forte douleur comparable à ce qu'on peut ressentir lorsqu'on est torturé. Là, le corps énergétique se détache du corps physique justement pour préserver le corps physique. Ça, c'est des choses qui peuvent se passer lors d'un accident, aussi d'un accident avec quelque chose de très violent. Le corps énergétique peut être propulsé en dehors du corps physique. C'est des choses qui existent, hein, j'en suis convaincu.
Mais là, j'étais en paix. C'était pas du tout de la douleur.
Mais tu pleurais.
Oui, je pleurais d'amour, de joie, de. Et j'étais pas venue dans cette église pour méditer du tout. En fait, je fais un petit tour comme ça. Alors peut-être inconsciemment, peut-être.
Mais peut-être que c'est ce qu'on appelle un état de béatitude, justement, ce qui est décrit justement dans la vie des saints. Donc, en fait, encore une fois, l'astral, c'est le monde des émotions. On est tous perpétuellement dans l'astral sans le savoir. Donc, si on vit des émotions négatives ou positives ou très fortes, on est dans l'astral. Et ça peut nous projeter une partie de notre être, justement, et de notre conscience dans l'astral. Je ne sais pas, Léa, si tu veux
compléter. Oui, bah, je suis d'accord avec toi. En fait, le fait d'avoir contemplé cette statue, en une fraction de seconde, il y a peut-être eu un état méditatif qui s'est installé de manière spontanée, inconsciente et rapide, et qui a fait que le corps astral s'est détaché, justement, alors que tu étais complètement consciente. Et du coup, tu as pu sans doute remarquer le fait que ton corps physique était toujours... les pieds au sol et que pourtant tu avais l'impression de flotter. Donc c'est possible. C'est tout à fait possible. Et ce que disait Hervé sur un accident de voiture, moi ça m'est arrivé d'avoir un accident de voiture justement, que d'être tamponné par l'arrière à 100 km/h alors que j'étais à l'arrêt. Et j'ai vu la scène d'au-dessus. En fait, mon corps astral spontanément est sorti. Sans que volontairement je me dise tiens je sors, mon corps astral est sorti et j'ai vu la scène d'au-dessus. Et ce qui fait que je n'ai ressenti aucune douleur physique avant le lendemain, parce que j'étais en train de planer au-dessus de mon corps, quoi, pour gérer les choses et pour ne pas ressentir la douleur et pouvoir justement. C'est une forme de. Dans ce cas-là, c'était plus une forme de mise en protection, en fait, du corps physique pour pouvoir gérer la situation. Donc il y a des formes, des fois, de sortie astrale qui se passent de manière spontanée et inconsciente. Hein. Mais c'est d'ailleurs ce que Hervé disait, on fait ça toute la journée, à plein de moments, quoi. Vous avez souvent votre esprit qui vagabonde à droite et à gauche, en train de faire quelque chose et en n'étant pas dans le moment présent, justement, en n'étant pas dans la conscience de ce que vous êtes en train de faire. Et ce qui fait que le corps astral, de temps en temps, il en profite pour se décrocher un petit peu, mais ça ne va pas très loin. Ça reste au-dessus du corps et puis. On reste sur le phénomène des pensées. Mais oui, c'est une forme de sortie astrale, de mon point de vue.
Ok. Alors, il y a Lucie également qui souhaitait prendre la parole. Vas-y, Lucie. Tu peux activer ton micro.
Oui, je voulais intervenir, car moi, j'ai fait un voyage astral, j'en ai fait plusieurs, dans le cadre de séances de chambre à tachyon. Et comme vous le savez, les chambres à tachyon permettent justement d'avoir accès à des trous de verre. J'avais demandé, je voulais aller visiter d'autres galaxies. Et mon frère galactique est venu me chercher. Il m'a emmené dans un trou de verre et jusqu'à un vaisseau spatial pour me rendre sur une autre planète et visiter le cosmos. C'était assez génial. Mais ce que j'ai fait d'autres séances où je voulais retourner, je voulais continuer l'exploration, et je n'ai jamais pu le refaire. Et justement, Hervé, tu as parlé à plusieurs reprises de gardiens de la matrice, et je me suis demandé si j'avais été repérée, parce que moi, j'aime bien explorer.
Ouais, non, mais c'est exactement ça. Alors, c'est bien que tu parles des chambres à tachyon. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué la chose. Et alors, donc, par rapport à cette notion de voile, donc voile électromagnétique autour de la Terre, donc c'est vrai qu'il est fluctuant, mais les chambres à tachyon, c'est quelque chose de très particulier, comme tu le dis. C'est une exception à la règle, c'est-à-dire que ça crée en fait effectivement une communication entre la surface de la planète. Et l'au-delà du voile, la chambre à tachyon, ça fait, il y a, comme tu le dis très bien, donc c'est une espèce de trou de verre. Donc ça, c'est comme si on perforait le voile de la matrice à un certain endroit, et ce qui nous permet une échappée. Donc c'est tout à fait cela. Ceci
et
étant,
on le sent très fort. C'est-à-dire que c'est une vitesse supersonique, quoi. C'est un truc de ouf quand tu traverses ce trou de verre. Ça va excessivement vite. C'est indescriptible.
Ouais, c'est des vitesses supraluminiques et voilà, pour moi c'est vraiment des exceptions à la règle. Ceci étant, effectivement, si tu as fait ça une première fois, tu risques d'être marqué à la culotte. Alors je sais pas comment ils le font, pardonnez-moi l'expression, hein, je sais pas comment ils le font exactement. Est-ce qu'ils marquent notre âme avec un marqueur particulier ou avec un implant, je ne sais pas. Ce qui fait que lorsque tu te retrouves dans la chambre à tachyon, du coup il y a une alerte quelque part et on va pas forcément t'autoriser à le refaire. Je sais qu'il y a d'autres personnes là qui nous suivent actuellement sur le Radio Pléiade qui ont eu des expériences similaires, mais ouais, c'est vraiment bien que tu en parles parce que c'est une expérience un peu particulière, mais qui peut je confirme tout à fait, c'est complètement cohérent avec ce qu'on sait des chambres à tachyon et de ces possibilités exceptionnelles de traverser le voile.
Merci.
Ben merci à toi. Alors, il y a Rademou qui souhaitait prendre la parole également. Vas-y, tu peux activer ton micro. Un lion qui copie un lion devient un singe.
Oui, bonsoir tout le monde. C'est intéressant, donc, comme sujet. J'avais juste une question par rapport aux EMI. Est-ce qu'on peut parler de sortie astrale lors d'une EMI? Voilà.
Pardon? Lors d'une quoi?
D'une expérience de mort imminente.
D'accord.
EMI.
Léa, tu veux répondre à Radmou?
J'étais en train de d'y réfléchir, puisque bon, je n'ai pas vécu ça de EMI, mais je pense que oui. Je pense que c'est une forme, oui, de sortie astrale. De... Après, l'expérience de mort imminente, c'est... c'est comme son nom l'indique, la mort est pas loin, hein, donc le départ et le décrochage du corps physique est pas loin. Donc effectivement, on passe, à mon avis, au niveau astral, on passe les différents gardiens, et à un moment donné, le contrat n'est pas terminé, donc on retourne dans le corps pour terminer le contrat. Donc oui, je pense que c'est une sortie astrale. Je sais pas ce que toi tu en penses, Hervé, mais c'est une forme de sortie astrale.
Moi, j'en suis aussi convaincu, hein. Tout à fait. C'était Raymond Moody, je crois, qui avait étudié le sujet, qui a écrit un livre sur le sujet. Quand on lit les différents témoignages, ça correspond tout à fait à ça. Et alors, par contre, quand on parle justement d'expérience de mort imminente, on pense au tunnel, au fameux tunnel et la lumière au bout du tunnel. Alors là encore, c'est quelque chose. Bon, c'est un sujet qui est très intéressant, qui a été abordé dans une émission. Alors, je me souviens plus le nom de la personne là sur le moment qu'il a faite, mais faudrait que je la retrouve, qui est sur Lève le Voile, que j'ai publié sur Lève le Voile, sur le fait que justement cette notion de tunnel, pendant longtemps, justement, quand on a étudié le sujet de l'expérience de mort imminente, on trouvait ça extraordinaire. C'était la preuve de l'existence de mondes parallèles, de l'existence de la réincarnation, de la vie après la mort, etc. Et en fait, il y a des expérienceurs très expérimentés qui ont un petit peu la même curiosité que Léa et qui ont essayé de comprendre un petit peu ce que c'était que ce tunnel de lumière, parce qu'on peut le faire aussi même quand on est dans une expérience de mort imminente, si on a une force spirituelle particulière. Et certains en ont déduit, alors vous prenez l'information, vous en faites ce que vous voulez, hein. Je ne dis pas que c'est la vérité absolue, mais certains en ont déduit que c'est une des technologies justement qui est utilisée par les contrôleurs de la matrice pour le recyclage des âmes. Donc le tunnel de lumière, ça peut sembler être une belle expérience spirituelle, une magnifique expérience qu'on a envie de raconter lorsqu'on est revenu parce qu'on n'avait pas fini son contrat d'âme, mais en réalité, c'est derrière, il y aurait des technologies qui leur permettent tout simplement de récupérer l'âme lorsqu'elle se désincarne, pour la mettre en face de ce qu'on appelle les seigneurs du karma, qui vont venir décider de est-ce que vous avez bien agi dans votre vie ou pas, et qui vont vous re-signer, vous refaire signer justement des contrats fallacieux avec plein de petites astérisques, pour que vous puissiez vous réincarner à nouveau et indéfiniment dans la matrice, et ainsi continuer à l'alimenter par votre énergie. Donc voilà, j'en profite juste pour faire cette petite parenthèse, puisqu'on a parlé de EMI. Alors, il y a une question, une information-question, encore de Shun dans le chat, qui demande, parce qu'on a beaucoup parlé de théâtre de l'astral, est-ce que finalement, tout ce qu'on vit dans l'astral n'est pas un petit peu biaisé? Et finalement, sous le contrôle de la matrice. Quel est ton avis, Laïa?
Ben, bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est biaisé. À partir du moment où on est dans l'astral et on n'y fait que des choses magnifiques et merveilleuses, c'est tout ce qui nous est servi sur un plateau pour que ça nous plaît, pour qu'on ait envie d'y retourner, qu'on ait envie d'avoir des expériences à raconter. C'est un peu ce qui se passe au début quand on fait des sorties astrales. C'est tellement hors du commun que ça semble merveilleux. Et en général, ce qui nous est servi, c'est ce qui nous plaît. Donc, oui, c'est un théâtre qui nous est servi. Et en général, quand on va voir une pièce de théâtre, on l'a choisi et on va voir quelque chose qu'on aime. Après, quand on commence à y créer réellement et à y être conscient, et où on fait ce qu'on veut, mais qu'on reste encore une fois sur le plan horizontal, il n'y a pas de problème. Quand on commence à monter, à détruire les décors qu'on nous sert et à dire « Oh, il est où là celui qui me sert des petits décors dorés ?» que je lui montre mon décor à moi et que je crée une page blanche et que j'y fais ce que je veux, là, ça commence à poser des problèmes. Mais oui, c'est bercé d'illusions. Hein. L'astral est bercé de nos propres illusions, en fait. Nos propres illusions, nos propres désirs, nos propres affects. Et tout ça, ça sert à un metteur en scène pour nous servir quelque chose qui va venir nourrir notre ego et provoquer des émotions, des sensations, donc de la nourriture pour notre forme de conscience, d'entité.
Et le metteur en scène nous connaît bien mieux que nous nous connaissons parce que lui, il voilà. nous connaît à travers les différentes incarnations, justement.
Voilà, tout à fait. En fait, le metteur en scène, il a une vision globale. Il a la vision de l'avant, pendant, après, quoi, limite. Hein. Il a une vision vraiment globale de tout ce qu'on représente. Et c'est, ça n'a pas de notion de temps. L'astral n'a pas cette notion de temps. C'est pour ça que j'ai pu aller visiter une vie d'il y a 4500 ans sans avoir eu l'impression d'avoir traversé des années-lumière. Il n'y a pas de notion de temps dans l'astral. Donc, eux voient tout. Ils savent tout. Ils savent tout de nous, alors que nous, on ne sait rien. On sait rien du tout. On sait juste ce qu'il y a là, ce qu'on va faire demain ou dans une heure, enfin, nos petits problèmes du quotidien. Mais eux savent alors, tout.
Il y a Caro qui pose une question. Du coup, si un être cher décédé vient nous voir et que c'est un masque, comment savoir si c'est bien l'être cher ou justement une personne masquée? Est-ce que c'est possible? Et est-ce que c'est possible d'avoir le vrai contact avec eux sans la pièce théâtrale?
Alors, la personne masquée, la personne, si c'est réellement elle, on va le ressentir. On va le ressentir par rapport à son énergie, à sa façon d'agir, et pas seulement qu'au physique. On disait tout à l'heure, dans l'astral, se fier vraiment à son intuition et à ce qu'on ressent, et pas à ce qu'on voit. Parce que si vous vous fiez à ce que vous voyez... vous allez suivre votre grand-mère décédée parce que c'est la grand-mère décédée, mais en réalité, non. Et elle va vous faire signer un document et finalement, vous aurez signé un contrat. Quoi. Et après, est-ce qu'on peut contacter les défunts de manière à ce que ce soit vraiment eux? Oui, sans doute que oui. Après, je ne suis pas sur ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui me parle pas forcément, enfin j'ai pas envie de faire ça, mais oui, c'est possible de discuter avec d'autres âmes qui sont bloquées aussi. Après, c'est un autre sujet.
Alors j'ai retrouvé l'émission là dont je vous parlais, je vais la mettre dans le chat. C'était Marc par rapport à l'expérience de mort rapprochée dont on parlait tout à l'heure et le tunnel de lumière. Donc c'est Marc Gray qui organise les dîners de l'éveil justement sur Rouen, qui avait fait un entretien sur expérience de mort rapprochée négative dans la fausse lumière. Donc, pour les gens que ça intéresse et qui souhaitent approfondir, je vous mets ça dans le chat. Voilà. Alors, on a Lina qui souhaite encore intervenir. Vas-y Lina, tu peux activer ton micro.
Oui, bonjour tout le monde. Je voulais bonjour. Juste un peu... Bonjour, je voulais juste un petit peu commenter sur ce que Radmo disait concernant l'expérience de mort imminente. J'en ai vécu quelques-unes, moi, en même temps, là, lors d'un accident. Et pour moi, tout était beau. J'ai pas vu de tunnel, par contre. Mais mon père était avec moi, l'entité de mon père était avec moi, il me rassurait. Puis quand les ambulanciers sont arrivés, j'ai réintégré mon corps et j'ai pas de souvenir de rien. Mais rendu à l'hôpital, ils ont tourné un petit peu la civière et là, j'ai dit, papa, ils peuvent pas me bouger, j'ai le dos cassé. Et là, mon père, il m'a dit, c'est correct, ma belle. Et je m'occupe de ça. Puis, après ça, ils m'ont opéré et j'ai tout vu. J'ai assisté les chirurgiens. C'est incroyable, hein? J'ai assisté, j'aimais ça, là. Tout était beau. Tout était beau. Mais juste pour vous dire que, à chaque fois que j'ai regardé des expériences de mort imminente, ce que les gens disaient, c'était très différent de chacun à chacun. Par contre, ce qui ressortait beaucoup, c'était l'amour. C'est incroyable, ça se décrit pas, l'amour. Moi, j'ai revécu avec mon père, je suis allée dans la maison où est-ce que j'étais quand j'étais petite, j'ai revécu toutes les expériences qui m'avaient affectée et je les revoyais et je disais, ah, ok, je comprends maintenant, papa. Je lui disais merci. Et puis après ça, j'ai dit, j'ai terminé. Là, je sentais une présence plus forte. Et là, j'ai dit, comment vous remercier et quelle est ma mission? J'ai posé la question deux fois, j'ai pas eu de réponse. Mais en fin de compte, j'ai compris plus tard c'était quoi ma réponse. j'ai senti un amour incroyable, ça se décrit pas. Je pense pas que personne puisse imaginer ça. Ça, dans chaque cellule de mon corps, et on en a des millions de cellules dans le corps, hein. Le temps n'existe pas là, dans cette sphère-là. Je ne sais pas combien de temps ça a pu prendre, j'ai aucune idée. Mais cet amour-là, là, quand je me suis réveillée du coma, je la sentais physiquement. Et ça s'est arrêté 5 mois plus tard parce qu'il m'avait passé plein d'IRM. Et puis là, il fallait qu'il m'enlève la vésicule biliaire. Fait que là, lors de l'anesthésie, j'ai perdu ça au réveil, la sensation physique. Mais elle est toujours en moi, là, cet amour-là. Là, c'est incroyable. Et ma vie a complètement changé. Je disais aux gens au réveil, j'ai vécu une mort-renaissance. C'est une autre vie, là. C'est complètement une autre vie. Fait que c'est un peu l'expérience que je voulais vous raconter parce que j'essayais d'aller voir pourquoi est-ce qu'il y en a qui vivent une expérience négative. Je ne comprenais pas et je ne comprends toujours pas parce que c'est tellement beau. Mais moi, je n'ai pas vécu le tunnel, là. Je vivais ce qui se passait. Puis moi, j'étais un petit peu dans ce genre-là à vouloir superviser qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis j'ai jamais confiance en les docteurs ici et ça. Moi, j'ai jamais eu confiance. Donc, je regardais toujours ce qui se passait. Tu sais, c'est un peu ça que je voulais raconter, oui. Ouais.
Ouais, super, merci beaucoup. Et puis avec ton super accent, on adore. C'est vraiment, ça nous fait voyager. Là, on est parti au Québec, juste en restant sur place. Je ne sais pas si c'est un voyage astral, mais.
Ah oui, c'est vrai. Hein? On n'a pas tout à fait le même français. On l'a pas mal démoli le français ici, là, ouais.
Désolé. Ah non, au contraire, vous l'avez fait revivre. Non, vous le préservez très très bien. Vous n'utilisez pas tous les anglicismes affreux que nous, on utilise.
Oui, c'est vrai, parce que je vis autour des Anglais partout, moi, ici. Hein. On est la seule province dans le pays qui parle français, là, puis c'est pas évident. Là. C'est tous Anglais partout ici, là, ouais.
En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, c'est super intéressant.
Ça me fait plaisir.
Ouais, merci beaucoup. Il y a une question qui est arrivée aussi en parallèle dans le chat. Par rapport, alors ça c'est moi qui ai apporté cette notion d'âme recyclée, la personne demande si les âmes sont recyclées dans la matrice, les enfants indigo, les enfants diamants, ça n'existe pas, point d'interrogation. Alors,
Il me semble, hein, Hervé, notre indigo Sandrine, notre guerrière de lumière.
Alors, en fait, moi j'aurais envie de renvoyer les personnes justement sur une émission Radio Pléiade qu'on a faite, avec Romain, un primo arrivant. Voilà. Donc, moi, j'aime pas trop manipuler cette matière enfant indigo, enfant diamant, etc. Parce que on est toujours un petit peu dans du narratif pseudo New Age. Mais ce qui est une réalité, c'est que il y a des âmes qui arrivent dans la matrice et qui continuent à arriver, effectivement. Alors, si vous voulez les appeler enfant indigo ou enfant diamant, très bien. Et c'est vrai qu'il y a des âmes qui arrivent pour nous aider à assurer la transition et la fin de cette matrice. Et c'est un sujet qu'on a abordé donc en partie avec Romain, qui pense être, j'avoue que je le crois, une personne qui fait sa première incarnation dans la matrice, qui a accepté de venir s'incarner donc il y a 28 ans, donc assez récemment, dans la matrice pour aider à la transition à cette fameuse ascension planétaire dont tout le monde parle, mais que pour ce faire, malheureusement, il a dû accepter des choses terribles. Et c'est ça aussi qui me gêne dans le narratif souvent des enfants indigo, enfants diamants, tout est beau, c'est un petit peu le monde des bisounours. Mais en réalité, lui, ce qu'il nous raconte, c'est pas tout à fait ça. C'est que quand vous rentrez dans la matrice et que vous êtes une âme jeune, justement, enfin une âme jeune, non, vous pouvez être une âme très ancienne. Mais si vous arrivez fraîchement dans la matrice, le problème, c'est que vous avez un potentiel libérateur assez important. Et donc, les contrôleurs de la matrice font tout pour essayer d'éteindre ce potentiel libérateur. Et il nous raconte dans son témoignage comment, justement, son âme a été torturée. On lui a fait signer des contrats pour essayer de limiter ce pouvoir spirituel. Alors, je sais, hein, encore une fois, que ça va à l'encontre de beaucoup de narratifs sur tout ça, sur ces âmes qui viennent dans la matrice, ces vagues de volontaires dont on parle. Mais voilà, en tout cas, c'est la réponse que je peux donner à ça, sur cette question. Donc, ça n'empêche que les âmes sont recyclées, mais il y a des âmes fraîches qui arrivent en permanence, à condition qu'elles se plient et qu'elles passent par les fourches codines des contrats des contrôleurs de la matrice. Alors, ça fait plus de 2 heures qu'on parle. Je pense qu'on va pas tarder à conclure pour éviter de faire en sorte que cette émission soit trop longue. Éventuellement, peut-être si une dernière question ou un dernier témoignage, s'il vient tout de suite, je veux bien le prendre. Agnès, ok. Vas-y, Agnès. Tu peux activer le micro.
Oui, vous m'entendez bien?
Très bien.
Ah, super. Bonsoir tout le monde. Merci pour tous ces témoignages très enrichissants. Pour ma part, j'avais, comment je pourrais dire, un témoignage question en ce qui concerne les limites du rêve et du voyage astral. Alors, je vous explique. Plusieurs fois, il m'arrive encore, de ramener au réveil des sensations physiques très fortes. Et tout à l'heure, il a été fait mention d'expériences intimes, sexuelles, qui n'avaient rien à voir avec les expériences dans la 3D, dans la matière, dans la physicalité. Or, moi, ce que j'ai éprouvé, en tout cas très, très fréquemment, c'est le même genre de sensation que je ramenais d'ailleurs. En fait, c'est comme si j'avais eu une expérience, je ne saurais pas dire si c'est l'astral ou le rêve, ou un peu des deux, ou une fois l'un, ou une fois l'autre, mais que cette sensation, je continuais de la vivre au réveil. Et souvent, même je dirais que c'est la sensation qui me réveille, c'est-à-dire la sensation du toucher, ou même d'une pénétration, ou d'une... Alors souvent, ce qui m'est arrivé, c'est d'une presque... presque pénétration. Donc, je me suis dit, à ce moment-là, je me dis, ouf, je n'ai pas toujours le souvenir de qui c'est exactement, ou même si je sais qui c'est, et souvent j'ai conscience que c'est un masque d'ailleurs, ou que c'est un rôle, un personnage, parce que c'est souvent les mêmes personnes qui reviennent, ou les mêmes rôles, les mêmes acteurs, hein, je vais dire. Et bien, même si c'était souvent les personnes que je peux identifier, je sais très bien que dans le fond, derrière, ce n'est pas celles qui sont incarnées, en fait, que ce sont des acteurs. Et quand je me réveille, c'est souvent que je me dis, ah mince, peut-être que la prochaine fois, je devrais voir qui c'est vraiment, parce que je me doute bien que c'est pas la personne que je connais, en fait. Donc, en vous écoutant, et puis depuis plusieurs émissions, je commence à me dire, est-ce que je ramène l'astral dans le réveil, dans ma conscience de moi incarnée ici présent. Voilà, c'est un peu le témoignage question. Et c'est pas toujours que des... donc, ça peut être différentes sensations. C'est pas toujours sexuel ou presque sexuel. Ou ça peut être aussi... de fortes sensations physiques dans tout le corps ou dans une partie du corps, un bras ou ailleurs, le dos, le ventre, enfin voilà. C'était ce que... si jamais il y a quelqu'un qui peut apporter un élément de réponse, merci d'avance. J'ai été clair, hein. Peut-être que c'est pas très...
Si, c'est très clair ce que tu dis. Ramener des sensations de l'astral dans le corps physique, oui, c'est tout à fait possible, puisque ce que tu vas déclencher au niveau astral va parfois être tellement fort que ton corps physique va réagir. Donc, quand tu te réveilles ou quand tu es semi-réveillé, les sensations de ton corps ils sont existantes, quoi. Ils sont matériels, donc tu les ressens. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est si tu as conscience que c'est un masque, donc une entité étrangère aux gens que tu peux connaître qui viennent déclencher ça, c'est qu'ils essayent de venir déclencher justement la montée de Kundalini, qui est une énergie qui est très puissante, et du coup, là, tu leur sers du caviar, quoi. tu leur sers du caviar. Et du coup, ça peut être un vice de leur part de venir déclencher au niveau astral une puissance tellement forte au niveau sexuel que quand tu rentres dans ton corps, tu la ressens. Donc, tu vas avoir une émotion, tu vas avoir une pulsion qui va les nourrir encore plus. Donc, après, c'est un jeu de va-et-vient, si je peux me permettre. Mais.
je note le jeu de mots.
mais oui, tu peux ramener des sensations de l'astral dans ton corps physique. Hein. Mais il faut. Voilà, il faut être conscient de avec qui tu es. Parce que si oui. C'est pas avec des gens que tu connais, il n'y a pas de raison que tu vas nourrir. Enfin, après, c'est toi qui vois. Hein, mais c'est ça, en fait. Et ils aiment beaucoup déclencher de nos jours l'éveil de la Kundalini, parce qu'on ne va pas parler de montée de Kundalini, mais de l'éveil, parce que c'est tellement, tellement jouissif que ça les nourrit. Ça les nourrit énormément. Ce qui ne les nourrirait pas, c'est de la faire monter, parce que tu la gardes pour toi. Mais eux, ils la laissent qu'au niveau chakra sacré, comme ça au moins ils sont nourris. Donc c'est pour ça qu'ils déclenchent ça, aller et venir au niveau astral, au niveau physique, pour justement que tu nourris que ça.
Okay. Donc, alors j'en profite pour parler d'un petit concept, justement, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais par rapport à la sexualité dans l'astral. C'est un concept qui nous vient de l'Antiquité gréco-romaine, hein, donc ça date pas d'hier. C'est les incubes et les succubes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Justement, ce sont des entités de l'astral, en réalité, même si les Grecs ou les Romains n'utilisaient pas ce terme-là, qui viennent exciter en fait les hommes ou les femmes pendant leur sommeil. Pour qu'on leur serve justement ce caviar dont tu parlais tout à l'heure, cette énergie sexuelle qui représente effectivement une nourriture émotionnelle, je pense, très appréciée. Donc les incubes, c'est les démons masculins qui ont tendance à abuser des femmes, et les succubes, les démons féminins qui ont tendance à abuser des hommes et qui, justement, dans les rêves, provoque ces excitations, éventuellement ces orgasmes, pour pouvoir se nourrir justement de cette énergie libérée. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, hein, on en avait déjà conscience pendant l'Antiquité. Donc voilà, j'en profite pour ressortir ce concept.
Hervé, okay, bah merci beaucoup. Léa, juste pour terminer pour ma part, si c'était possible, et Hervé également, merci beaucoup, parce que je sens que dans... Alors, si c'est de l'astral, moi, je pense que c'est vraiment de l'astral, du coup, maintenant. Ça ne va pas jusqu'à l'orgasme ou une excitation. Enfin, peut-être au début, oui, dans les premières expériences, mais pas dans les dernières, parce que je remarque que je me rends de mieux en mieux compte de la supercherie, en fait, du jeu, et que ça ne me convient pas. Donc, en fait, ils n'ont pas le temps d'activer grand-chose. Ce sont les dernières expériences que j'ai eues, là, les plus récentes. Donc, je me rends compte que justement, ils n'y arrivent pas, quoi, en fait. Mais ils essayent toujours.
Oui, il faut que tu dises non. Il faut que tu imposes ta volonté. Que tu dises telle est ma volonté, et ma volonté est la loi. Donc, du coup, c'est tout. Tu as imposé ta volonté. Ils ne peuvent pas aller contre ta volonté. Ils peuvent te proposer des choses qui vont peut-être te plaire au début. Donc, ça leur va très bien. Mais quand toi, tu dis non, il n'y a pas de forcing, quoi. Ils sont obligés d'obéir à ta volonté. À partir du moment où tu dis que ta volonté, c'est la loi, ils ne peuvent pas aller contre la loi. Donc, tu fais tes petites lois, et puis comme ça, après, tu n'en mets plus.
Oui, oui. Il a dû se passer quelque chose comme ça, parce que depuis plusieurs mois, je décrète, enfin, depuis plusieurs années, je fais des décrets, mais là, ça s'est intensifié en termes de souveraineté ou de réappropriation de toutes les parties de moi qui peuvent être, qui auraient pu être éparses, des bouts d'âme, des morcellements d'âme que je récupère et que je déclame et que je clame et que je décrète très, très au quotidien, en fait, plusieurs fois par jour, que je suis une, que je suis la source, donc ça doit être plus compliqué de l'autre côté pour eux. Et je sens donc très bien, mais en tout cas merci pour ce nouvel outil de décréter sur la volonté, sur ma loi. Ça va certainement être encore plus efficace dans l'astral. Merci voilà. Ouais, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Ça vibre fort, merci.
Est-ce que je peux faire un petit commentaire?
Vas-y, Jean-Claude.
Il y a le film qui est sorti en 1982 qui s'appelle L'Emprise. Et c'est un film américain. C'est une histoire vraie d'une personne qui est justement avec l'emprise d'une entité qui cherche à lui faire des rapports sexuels en permanence. C'est un très très beau film là-dessus justement, et c'est une histoire vraie.
Donc, c'est très intéressant, merci beaucoup.
De 1982.
Merci beaucoup pour la référence.
Je peux laisser la référence sur le site éventuellement.
Ouais, s'il te plaît, sur le groupe Révolution Vibratoire, très bien. Oui, merci beaucoup, Jean-Claude.
De rien.
Alors il y a encore des questions, mais on va continuer plutôt en mode after. Je vais mettre un terme à cet enregistrement, la partie enregistrée. Et pour ceux qui souhaitent continuer à échanger, donc comme vous le savez, on passe en mode after, en mode non enregistré. Je voudrais quand même donc merci beaucoup, Léa, pour tout ça, pour tous ces échanges. Un mot de la fin quand même, avant de terminer cette phase enregistrée. Est-ce que tu, je sais pas, si tu devais apporter une conclusion ou un enseignement clé, qu'est-ce que tu pourrais nous dire?
Ce que j'ai envie de vous dire, bon, déjà c'est merci pour tous ces échanges, ces enrichissements les uns envers les autres, cette bienveillance aussi. Ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que vous êtes créateur et que finalement Dieu, c'est vous, c'est chacun d'entre vous. On est Dieu en fait. On se réfère toujours à un Dieu extérieur, mais en réalité, la divinité, elle est en chacun de nous. Donc, il faut vraiment reprendre notre pouvoir de création pour pouvoir et notre volonté, comme disait Jean-Claude, pour pouvoir sortir de cette matrice. Et la sortie se fera sans doute au moment de vie à trépas, mais n'oubliez pas que Dieu, c'est vous, quoi, c'est pas ailleurs. Voilà, merci à tous.
Eh ben merci, Princesse Léa, merci beaucoup d'avoir bien voulu participer à cette émission et de partager ton expérience qui est super intéressante. Mais les échanges, tu vois, même avec les auditeurs, sont aussi très intéressants et très enrichissants. Alors, je rappelle juste donc notre prochain Radio Pléiade, donc la semaine prochaine, le 13, lundi 13 septembre. Donc nous accueillons Nadine Touzeau, donc profileuse, donc experte, on va dire en comportement et en discernement, notamment experte pour discerner la fausse lumière. Et je pense qu'on va on va l'orienter sur ce sujet-là et vous aurez la possibilité d'échanger avec elle. Et puis, je vous prépare également un Radio Pléiade sur le sujet des ovnis. Je vous remercie infiniment pour ces échanges bienveillants. Une fois de plus, c'était vraiment super. Et puis, je ferme de ce pas l'enregistrement. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez rester pour l'after. Voilà, merci et puis à bientôt.